Bonjour à tous, bienvenue au Photo Photo Podcast. Aujourd'hui à l'émission, on parle de la durée de vie des appareils et de l'usager. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue au Photo Photo Podcast. Aujourd'hui à l'émission, on a un sujet qui est vraiment le fun. On reçoit Yves Finsonneau. Salut, ça va bien?
Salut, merci. Je suis content d'être là à nouveau.
Ben écoute, c'est un plaisir. Aujourd'hui, on a un sujet qui va être assez intéressant. On va parler de l'usager. On va parler de la rapidité à laquelle les compagnies changent leurs boîtiers, leurs appareils. Puis, c'est quoi l'avantage d'aller peut-être vers de l'usager? C'est quoi les pièges à éviter? Fait que, je te propose qu'on fasse une émission un peu sur tout ça et qu'on arrive vraiment à parler un peu en détail de ces éléments-là pour voir exactement où qu'on peut faire des bons deals, où on peut éviter des pièges et faire en sorte que les boîtiers ou les appareils avec lesquels on travaille, ça soit toujours celui qu'on a vraiment de besoin.
Et qu'ils soient en bonne condition.
Ça, c'est une autre chose. Oui. Écoute, pour démarrer, je veux qu'on parle un peu des modèles à quelle rapidité qu'ils sortent. J'ai fait un peu l'exercice d'aller voir trois compagnies. Je ne les ai pas nécessairement toutes faites, mais pour l'exercice, je suis allé voir la rapidité à laquelle les modèles sortent chez DJI, chez Nikon et chez Apple, le iPhone. Quand on regarde un peu plus en profondeur, on s'aperçoit que des nouveaux modèles, il y en a un champ et une barge.
Ben, en fait, à Apple, si on parle juste des téléphones, c'était toutes les années. Boum, 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 un arrière de l'autre.
Là. Exact. Puis Apple, un des trucs qu'ils ont fait, c'est qu'à chaque fois qu'ils sortent un nouveau modèle, c'est pas un modèle qui sort. C'est un modèle décliné en différents, en différents sous-catégories pour être sûr d'aller chercher toutes les branches
tous les marchés.
Tous les marchés, exact. T'as un budget de 800 $, ils ont un produit pour toi. Tu veux avoir celui à 2000, il n'y a pas de problème, ils l'ont également. Mais pour l'exercice, écoute, je suis allé voir dans un premier temps DJI. DJI font des drones depuis un bon moment déjà. C'est une compagnie qui est fondée en 2009.
Commencé à faire des drones pour le marché consommateur en 2013.
En 2013.
Le Phantom.
Oui, le Phantom, janvier 2013, qui est sorti. Ouais. Et je me suis amusé un peu à regarder tous les modèles qu'il y avait, mais je me suis concentré sur les modèles récréatifs.
Oui.
Fait qu'on s'entend, c'est la suite des Phantom, c'est les Mini, c'est les Mavic, c'est les Air. Et après ça, bon, il y a les Avatar, il y a les Flip et ces modèles-là qui sont un peu plus récents. Mais grosso modo, un des trucs qui m'a vraiment surpris dès le départ, c'est que, bon, on disait le premier modèle 2013, on est en 2026, c'est 42 modèles qu'ils ont sortis.
Oh oui. Pour toutes les... Encore là, ils se sont couverts partout. Là.
Exactement. Fait que peu importe le budget que tu as, ils ont un drone qui rentre très bien dans ton budget.
Ouais.
Mais 42 drones en l'espace de 13 ans, ça représente à peu près un drone à peu près aux 3 mois et demi, là, un nouveau modèle.
Ouais.
C'est quand même énorme.
Ouais, c'est beaucoup, oui.
Et ça, c'est juste des DJI. Fait que là, je suis allé voir aussi chez Nikon la série des D et la série des Z. Et encore là, on a quand même des modèles qui sortent à une vitesse quand même très grande.
Ouais.
Juste la série des Z. Le premier, c'est le Z7, qui est sorti en août 2018. Et là, depuis ce temps-là, j'ai compté rapidement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 modèles depuis 2018. C'est quand même encore là une gamme qui couvre tous les budgets.
Oui, ben, c'est ça. Parce que c'est parti quand même assez fort. Z6, Z7, là, les deux appareils sont sortis à peu près en même temps, les deux premiers originaux.
Oui.
C'était destiné quand même à une clientèle qui avait un budget quand même assez large, un bon budget.
Oui, le Z6, moi, je le vois ici, il est listé à 3000 $, 2099.
Ça, c'est juste le boîtier.
C'est juste le boîtier, oui.
Fait que, oui, le Z7 était presque 5000 $. Fait que c'est des appareils qui étaient dispendieux. Puis là, il s'appressait pour qu'ils sortent un appareil de la même série, mais à un budget plus intéressant. Alors, ils sont arrivés avec éventuellement un Z5, avec un Z50, un ZFC, puis...
Oui, parce qu'ils sont arrivés dans un milieu un peu sur le tard, là, on va se le dire.
Oui, absolument.
Il y avait déjà Sony qui était là depuis là un bon moment, avec des très bons appareils. Ils tiraient un peu la patte là, de ce côté-là.
Ben, en fait, Canon et Nikon n'ont pas tant cru à ce marché-là, le marché du sans-miroir, là. sont arrivés. En fait, ils ont fait une courte présentation en 2010-2011 avec des appareils Gincon, la série 1, avec Canon, les appareils vraiment d'entrée de gamme, la série M. Mais ils ont laissé, malheureusement, ils ont laissé beaucoup de place à Sony puis à Panasonic. D'ailleurs, Panasonic a sorti les sans-miroirs avant Sony.
OK.
Bien avant.
Ça, c'est en quelle année à peu près?
2008.
2008, OK. Ouais. C'est 10 ans avant.
Oui, oui, c'est ça l'affaire.
Dans l'ère numérique, c'est, puis, tu sais, c'est la préhistoire.
C'est, pour ces compagnies-là, ces compagnies japonaises, c'est très conservateur, les Japonais. Ça prend du temps avant que tu vires le bateau de bord. Là. Tu peux mettre le volant à gauche, mais ça va prendre du temps avant que ça tourne. Fait que, et Nikon et Canon, c'est des compagnies qui sont très, 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 très conservateurs, qui ont de l'expérience, qui ont 100 ans et plus d'expérience. Fait que virer un bateau qui a 100 ans d'expérience, c'est plus long que de virer Sony, qui fabrique des produits très, très, très diversifiés. Pas juste des appareils photo, mais dans l'électronique en général.
Oh,
oui. Pas des produits cheap, là. Les meilleures télés sur le marché pendant longtemps, ça a été Sony et Panasonic, pour parler de Panasonic aussi. Ils ont été dans les caméras vidéo depuis tellement longtemps, les systèmes audio, mais Panasonic et Sony. Donc, Panasonic sous la bannière Technics, qui était la série haut de gamme, si on veut.
Oui.
Mais bref, c'est des compagnies qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience en électronique. Puis ils ont vu une opportunité, ils l'ont saisie puis ils l'ont développée. Mais pas à peu près, là.
T'sais. Canon et Nikon, bon, tu disais que c'était des grosses compagnies qui sont un peu plus lentes à changer de cap. Mais on s'entend, la clientèle l'est aussi. Là. L'argentique a été très longtemps préféré au numérique. Ça a été long pour certains photographes à changer, là.
Oui, parce que la majorité des gens avaient des appareils Canon et Nikon.
Oui.
Fait que, puis tu sais, à trisquer, aller vers un appareil qui n'a pas encore fait ses preuves tout à fait. Mais Sony, le budget de recherche et développement de Sony, si tu compares ça avec le budget de recherche et développement de Nikon, c'est des grenailles Nikon à côté de Canon, qui est une compagnie qui s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup diversifiée.
Oui.
Avant qu'on parle d'usagers, on fait un peu historique. Mais tout ça, toutes ces compagnies-là, le recherche et développement, le pauvre de la gang, c'est Nikon, là. C'est vraiment le pauvre, c'est un petit pauvre, là. Comparé de Canon qui s'est diversifié dans tellement de choses, comparé à Sony qui est un monstre.
Oui.
C'est un monstre de l'électronique. C'est les autres avaient dit quand ils sont sortis, puis moi j'étais sur la première génération d'appareils Sony qui ont sorti. En fait, ça avait été acheté de Minolta. Peut-être tu t'en rappelles,
oui.
Minolta avait fait faillite et Sony a racheté tous les brevets de Minolta, engagé tous les ingénieurs de Minolta et se sont dit « OK, parfait, on part avec quelque chose qui est déjà pas pire parce qu'il avait déjà des bons produits, mais Minolta a pas bien, bien suivi le marché un peu comme Pentax. » Puis là, je veux pas faire du name dropping parce que Pentax, c'est un autre… Pentax a décidé de ne pas aller dans le sans-miroir, pantoute.
Okay.
Eux autres, ils n'ont aucun appareil sans miroir.
Même aujourd'hui,
là. Puis, c'est drôle parce que les produits sont excellents, mais qui veut... Tu sais, plus personne tient Pentax. Parce qu'ils n'ont pas d'appareil sans miroir, parce qu'ils n'ont pas suivi la technologie, peut-être. C'est pas un mauvais produit, c'est un excellent produit, mais
c'est une vieille technologie.
Qui est très vieillissante, là. La preuve, Canon ne fabrique plus aucun appareil à miroir. Et Nikon a peut-être encore 3 appareils qui fabriquent à miroir, le D6, le D780 puis le D850.
Qui sont déjà peut-être dans le haut de gamme du grand public ou professionnel.
On n'aura plus après. Là.
Non, exact.
Terminé. Là.
Ouais.
Puis j'en commande de temps en temps parce que des clients qui sont très heureux avec ce système-là. Puis c'est un très bon produit. Tu sais, le D850, c'est le meilleur appareil réflexe sur le marché. Toute gamme confondue, toute marque confondue, c'est le meilleur appareil qu'il y a eu réflexe sur le marché. J'en ai encore livré un il y a quelques jours là, à un client, puis le client il était tellement content. Moi, j'ai livré la boîte en me disant son prochain, ça va être un Z8, mais lui, il ne voit pas de même. Il dit ça, j'ai ça, c'est peut-être mon dernier appareil photo.
Oh, à ce point-là.
Parce que la durabilité de ces appareils-là est légendaire. Là.
Généralement, ces boîtiers-là, les problèmes qu'ils avaient, c'était pas relié à la technologie. C'était le fait qu'il y avait des trucs qui décollaient ou des plus des trucs esthétiques ou cosmétiques. C'était pas les grosses affaires.
Rarement un problème électronique.
On va rentrer tout de suite pas mal dans l'usager parce que tu as ouvert la porte. Bon, des boîtiers, justement, comme les D810 ou des boîtiers qui sont peut-être un peu plus anciens, ça reste aujourd'hui encore des produits extrêmement performants, extrêmement forts, puis qui commencent à se vendre sur le marché comme marketplace ou l'usager ailleurs et en magasin, dans le rayon usager, à des prix quand même qui n'ont rien à voir avec le prix de vente de départ. C'était des boîtiers qui se vendaient 4 000 si ma mémoire est bonne. Puis présentement, on peut en avoir un usagé à 800 $.
Tous les 1000 $ définitivement. Ouais.
Fait que c'est quand même assez intéressant. Mais partons du fait que, bon, je suis un photographe, je veux pouvoir remplacer mon boîtier par un nouveau. Mon ancien matériel, c'est quoi les premiers trucs que je devrais faire pour être en mesure d'en tirer le maximum?
Bien, là, il y a plusieurs façons de voir ça. Si on est un consommateur, puis qu'on a envie de faire affaire avec un autre consommateur, donc par exemple toi et moi, qui n'avons pas de business de photo, on est deux personnes qui s'échangent on jase tout ça, puis je te connais, je sais comment te traiter ton matériel. Déjà en partant, il y a un lien de confiance.
Oui.
Fait que ça, c'est rassurant. Parce que je sais que si j'achète un produit, tu me connais, on se connaît, tu me diras pas dans 2 mois, ben là, c'est ton problème, c'est toi qui as le problème à cette heure. Ce qui nous amène
au DJI, au drone.
Et à toutes les. Puis c'est ça. Là, un appareil photo, c'est une chose.
Oui.
Un drone, c'est une autre chose.
Oui. Parce qu'un boîtier, on s'entend, là. Tu l'as dans les mains, tu vas le voir. Généralement, s'il déclenche bien.
Tes photos sont là, l'écran est propre.
Tout est correct.
Ça fonctionne.
Mais un drone, c'est beaucoup plus problématique.
Il peut avoir pris l'eau, le drone.
Il peut avoir pris l'eau, tu peux l'avoir craché, puis ça paraît pas trop, mais que quand tu le mets à voler, après 5 minutes, il se met à avoir des fruits,
voilà.
des bad trips ou quoi que ce soit.
C'est délicat d'acheter un drone usagé. Il faut faire confiance. Tu sais, nous, chez leurs photos, ce genre de produits-là, je ne les reprends pas en usage.
Okay.
Pour les raisons, exactement les raisons qu'on vient de mentionner. Les appareils photo, on en reprend, puis on pourra peut-être discuter tantôt jusqu'où on va, parce qu'il y a, pour nous, il y a une date de tombée pour les produits. T'sais? Puis on en rediscutera après. Mais si je te vends mon drone, encore une fois, je vais espérer que c'est quelqu'un que je connais déjà ou qui est très, très, très affiché publiquement, puis qui, tu sais, que je peux. Je peux compter sur le fait qu'il est crédible, si on veut. T'sais. Je ne veux pas dire que tous les gens qui vendent leurs produits ne sont pas crédibles, c'est pas ça. Là.
Non,
mais il y a une part d'insécurité quand on achète un produit usagé.
Il y a une fragilité dans un drone qu'on ne retrouve pas nécessairement dans un boîtier. Si le boîtier, tu l'as échappé, je vais m'en apercevoir tout de suite. Un drone, si tu l'as échappé.
Ouais. Ça se peut qu'on s'en rende pas compte.
Exact.
Hein?
Fait que tu cherches un peu plus dans ces cas-là.
Oui.
Mais si on commence par le boîtier, bon, première chose, de le nettoyer, de vider les cartes, tout faire, s'assurer que les mises à jour soient faites, et ainsi de suite. D'établir la valeur de ces boîtiers-là, ça, c'est peut-être la question la plus touchée.
C'est plus difficile.
Parce que, un, tu as l'effet sentimental, tu sais toujours combien tu as payé neuf, tu le sais que tu n'iras pas chercher la valeur que tu as payée, mais souvent, c'est un peu le désespoir quand tu t'aperçois que quand tu t'en vas sur Marketplace, tu as payé un boîtier neuf 4 000. Puis là, soudainement, quelques années plus tard, il est à 800 $, tu te dis, oh boy, la marche est haute.
Mais ça fait partie exactement de ce que j'appelle le fantasy price, le prix de fantaisie. Souvent, je dis aux clients, parce que les gens, ils viennent chez nous magasiner, bon, on a beaucoup de produits usagés chez leur photo, on a un très beau département, mais les gens qui magasinent sur Marketplace, moi, mon compétiteur chez leur photo, quand je vends l'usager, c'est Marketplace et Kijiji. On ne se comptera pas de mensonges. Là. Ce sont mes deux compétiteurs. Fait que la première chose que je fais, c'est que je vais voir ton produit que tu me proposes. Je vais aller le comparer avec un autre produit équivalent, le plus possible équivalent, sur Marketplace, entre autres. Kijiji, c'est un peu moins actif que c'était.
Oui, ça nous a perdu des plumes.
À cause de Marketplace.
Les packs, la même chose.
Ouais, exact, les packs qui sont pratiquement disparus, qui sont disparus et revenus.
Oui, revenu en mode gratuit, mais.
Je ne me souviens plus de la dernière fois que je suis allé là. Fait que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu comme un véhicule automobile. Quand tu sors un produit de la shop, moi, je te vends un produit, tu reviens 4 mois après, tu dis, moi, je pense que je l'échangerais contre un autre produit. Bien, il est rendu à 0,7 fois sa valeur.
Fait que ça va vite.
Que le prix original.
Ouais.
Fait qu'imagine un instant que le produit original est en spécial en plus, parce qu'il est toujours disponible. Je te donne un exemple, un Z8. Qui est toujours disponible, puis tu veux l'échanger contre un Z9 parce que, bon, tu as le goût de faire cet échange-là ou tu veux changer volontairement, je te force pas la, tu sais, je te force pas la patte, là. Bien, ton produit, moi, mon prix d'usager, je le pars du prix qui se vend neuf en ce moment, aujourd'hui, là, today. Parce que 4 ou 5 mois d'usure, entre nous, c'est pas une grosse usure.
Non, tu n'auras pas tant de déclenchement que ça, là.
Je te pars à, mettons, que ça vaut 4 699, ce qui est le cas actuellement. Ben c'est fois 0,7. Ça, c'est la valeur au marché. C'est ce que ça vaut sur le marché. C'est pas le prix que je vais payer.
C'est le point de départ.
Oui, c'est le prix que ça vaut sur le marché. Alors, je dis au client, si tu veux le vendre par toi-même, voici ce que tu pourrais obtenir. C'est le prix que ça vaut sur le marché.
Ouais.
Là, il dit, ouais, mais moi, je veux un échange. Alors, je veux faire un échange, puis je vais prendre un Z9 à la place. Exemple. Ou ils veulent plus petit. Des fois, ils veulent des équipements moins potentiellement technologiques, là, si on veut. Alors, le 0,7 en question, c'est la valeur au marché. Moi, si je le reprends, je refais un calcul parce que je dois, comme revendeur, comme fournisseur d'équipements photo, je dois donner une garantie à mon client. Ça, c'est pas obligatoire, mais nous, chez leur photo, on donne toujours une garantie.
C'est la meilleure façon de fidéliser une clientèle.
Tous les produits usagés qu'on vend sont garantis. Puis, on est, je touche du bois, là, parce que sur les plus de 500 produits qu'on a repris depuis 5 ans ou 6 ans, même peut-être 7 ans, j'ai eu 2 retours. C'est 2 retours, puis un qui était facilement réparable, un autre qui nous a coûté un peu plus cher. Mais ça fait partie de la game.
Oui, mais c'est de l'usager, c'est un risque.
C'est ça. J'achète un produit, je le teste, on les teste beaucoup, les produits. Là. Je les examine, je les regarde cosmétiquement. S'il n'est pas beau cosmétiquement, moi, je ne le prends même pas. Alors, ça donne une idée. Il pourrait être en parfaite condition de fonctionnement. S'il n'est pas beau esthétiquement, je ne le
vendrai pas.
Ben, je ne le vendrai pas parce que le client qui va l'acheter en usager, il va le regarder et il va dire « Oh, il n'est pas trop en shape, hein, ton produit. » Oui, il est parfaitement fonctionnel, mais c'est comme un peu acheter une voiture qui roule parfaitement bien, mais qui est bosselée tout le tour. Là.
Tu sais, ouais. c'est du cosmétique,
c'est pas attrayant.
Mais tu ne l'aimes pas.
Non, c'est pas attrayant pantoute. Alors, je dois le racheter pour moi, le reprendre en échange ou des fois, on le vend pour le client. Okay. Parce qu'il y a aussi la consignation qu'on peut faire. Mais revenons au consommateur et consommateur. Comment je vérifie l'état cosmétique? C'est le premier indice. Si ton état cosmétique est bon, tu regardes, il n'y a pas de graphique dans l'écran, des écrans d'appareil photo.
Ouais.
S'il n'est pas partout graffiné, il n'y a pas de peinture qui manque. Déjà, en partant,
il y en a plus soin.
Ouais. Tu prends des photos, tu écoutes au son. Évidemment, les appareils sans miroir, c'est souvent des sons électroniques un peu plus. Mais les appareils qu'on va voir en vente beaucoup, c'est des appareils à miroir.
Oui.
C'est des appareils de la génération qui est en train tranquillement
de céder la place
au sans miroir. Donc, ces appareils-là, on écoute au son. Des fois, il y a un son qui ne pardonne pas. C'est celui où tu as un long délai de déclenchement. Puis, je ne parle pas d'une longue exposition. Tu as un miroir qui te semble un peu paresseux, là. Puis ça, on l'entend. Moi, je les entends parce que depuis 30 plus années que je rachète du matériel usagé, ben, je les entends. Tu sais, il y a des appareils
photos. L'oreille musicale.
Oui, puis il y a des appareils photos que je sais que cet appareil-là, précisément cet appareil-là, il y a tel ou tel défaut. Parce qu'avec le temps, l'expérience, fait que, par exemple, des gens qui vendent un D70, ben il y a souvent le message CHA qui apparaît. Puis c'est le motherboard, le CHA.
Okay.
De temps en temps, tu tires, enlèves la carte, tires, enlèves la carte, remets la carte, enlèves la carte, le message disparaît. Mais c'est signe que la carte maîtresse est sur le point de lâcher. Là. Les appareils, les premiers rebelles
de Canon,
où souvent le flash incorporé ne lève pas. C'est la première chose que je fais quand j'ai un rebelle qui revient. La première affaire que je teste, c'est est-ce que le miroir flippe? Il n'y avait pas le miroir parce que le flash. Et ce flash-là se surlève, je suis capable de l'utiliser. Est-ce qu'il est fonctionnel? T'sais, les gens, ils ne penseront pas tout le temps à regarder le flash, mais c'est la partie qui brise le plus dans les appareils, la série Rebelle, par exemple, de Canon. Mais chaque marque, chaque série d'appareils a ses petits défauts.
Comme les voitures, pour reprendre.
Comme les voitures. Tu sais, puis je pense, si on va plus loin, les appareils plus haut de gamme ont une tolérance un peu plus grande à l'usure. Par exemple, un appareil comme un D800 ou un D810 ou même un D850, leur espèce de vie, leur tendance de vie, c'est à peu près 300 000 déclenchements.
Oui, ça, c'est un point, ça. C'est quoi l'âge moyen des appareils pour un usage qu'on va juger comme optionnel?
C'est ça.
Bon, là, en termes de boîtier, on va parler de déclenchement. En termes de drone, généralement.
Les heures de vol.
Les heures de vol.
Les batteries, l'usure des batteries.
Bien, des batteries, ça se remplace.
C'est une chance.
C'est facile de ce côté-là, mais c'est ça. Tu sais, il y a certains appareils, à la limite, comme un iPhone ou quoi que ce soit. Tu sais, souvent, la durée de vie va être un peu plus limitative. Par exemple, dans un iPhone, c'est l'OS qui ne suit pas.
La batterie.
La batterie, le ci, le ça. Dans les drones, souvent, c'est qu'on veut la plus récente technologie, qu'il y a des lidars, qu'il y a ci, ou quoi que ce soit.
Puis, tu sais, dans un drone, si tu achetais un drone usagé, je te dirais la première chose à vérifier, tu déploies les pattes, puis tu vérifies. Les pattes sont-elles bien fixées?
Ouais.
Ça bouge-tu? Y a-tu un lousse que tu trouve douteux. Si, dans ta tête, la réponse est oui, va pas là. va juste pas là. Regarde l'état des hélices.
Oui.
Les hélices, ça pardonne pas, là. Quand tu vois que c'est chippé partout sur l'hélice, il a dû frotter quelque part, ce drone-là, tu sais.
C'est pas juste des mouches.
La nacelle. Parce que la nacelle, c'est pas mal la partie la plus fragile d'un drone. C'est bon de tester que la nacelle va vraiment dans toutes les directions. Et plus le drone est vieux, évidemment, plus la nacelle vieillit. Elle a travaillé beaucoup. Fait que de bien faire aller la nacelle dans toutes les directions. Tu sais, si on recule jusqu'au Mini 2, mettons la série Mini de DJI, ben, ces appareils-là ont quand même une bonne vie encore. Ils sont encore capables de rouler ça. C'est encore très, très correct au niveau de la qualité d'image.
Aujourd'hui, ils les ont renommés en SE, puis ça se vend encore.
Tu sais, le Mini 4K, c'est un Mini 2, soyons honnêtes. C'est presque le même frame, exactement la même nacelle, la même caméra.
Oui.
Fait que ça a bien vieilli, là, cet équipement-là. Évidemment, toi puis moi, on veut peut-être avoir le dernier cri. D'ailleurs, c'est ce qu'on a.
C'est oui, effectivement. Mais ça va aussi selon l'usage que tu en fais.
Oui, c'est ça. Puis,
si tu es du genre à en faire un usage qui est plus occasionnel, ben dans ce cas-là.
Peut-être pas besoin du Mini 4 ou du Mini 5.
Ben exact. Si ton but, c'est juste de filmer ton voyage quand tu es allé faire du camping, puis qu'après ça, il reste dans le garde-robe pour le reste de l'année. Ça vient cher, la photo.
Puis en plus, c'est pas la meilleure place à le mettre dans le garde-robe parce que les batteries, il faut les recharger. Là.
Oui.
Une fois par mois, au moins, juste les mettre à la charge puis les faire se vider légèrement, juste le faire rouler. Il y a beaucoup de pièces mécaniques sur un drone. Hein? Fait que les hélices, le moteur, il faut que ça bouge, ces affaires-là, sinon ça finit par saisir.
Exact. Est-ce que d'après toi, bon, tu sais, on en vient un peu à se demander souvent pourquoi qu'on change d'appareil. Souvent, on veut des nouvelles technologies, on veut des nouveaux features. On est arrivé au bout un peu de ce que l'appareil pouvait nous offrir en termes de possibilités.
Qui, tant qu'à moi, est la meilleure raison.
Oui, exact. Ça veut dire que tu l'as utilisé
suffisamment pour avoir vu le bout. Ouais.
Et ça arrive dans des boîtiers. Ouais, souvent, c'est pour ça que tu as des boîtiers qui sont plus économiques puis que tranquillement, pas vite, si tu en fais plus, ben t'upgrades, tu vas aller chercher un peu plus. Mais la question que j'ai, c'est avec l'expérience que tu as, est-ce que tu crois qu'on change nos appareils trop rapidement?
En fait, c'est une décision qui est bien personnelle. T'sais. Est-ce qu'on le change trop rapidement? Je te dirais, moi, mes équipements, ouais, je les change trop rapidement. Mais ça, c'est mon besoin du. En anglais, ils disent les early adopters, ceux qui vont tout de suite au nouveau produit. Moi, je suis un fan de technologie. Fait que c'est sûr que quand il y a un nouveau produit qui sort, ça me tente en tabarouette. Ça me fatigue, en fait.
T'sais. Ouais, mais Mais t'es peut-être dans une situation un peu différente.
Oui.
Tu le vends, tu le proposes, tu le ventes. Et c'est clair qu'à un moment donné,
c'est dur,
t'as comme un gâteau devant toi, tu vas dire goody, goody, goody. Tu vas peut-être finir par écouter toi-même. C'est
toujours que la pire place pour le pire environnement pour pas acheter d'équipement photo, c'est quand tu travailles dans un endroit où ils vendent des produits. T'es comme dans un Toys R Us toute la journée.
Exact.
Là. C'est... Puis je suis pas tout seul, mais mes collègues, mes 3-4 collègues qui font de la vente, ils ont exactement le même syndrome que moi. Quand il y a un nouveau produit qui sort, tout le monde est d'accord. Là. On est très heureux avec notre équipement, mais il y a un nouveau produit qui sort. Tu sais, je te donne juste l'exemple, on parlait de drone tantôt. 1005 Pro est annoncé. Je planifiais déjà qu'est-ce que je ferais avec, qu'est-ce que j'allais voir les spécifications, qu'est-ce qui me donne de plus. C'est ça que je. Oui, ça, tout à coup, mon besoin vient de se créer là,
ouais, exact.
Live. Fait que, est-ce que le Mini 4 aurait fait la job? Probablement. Parce que j'ai quand même des affaires pas pires.
Oui, parce que ça, c'est un point aussi. Quand tu ouvres, par exemple, deux séquences d'un. Ouais. Tu sais, mettons du Mini 4 Pro, Mini 5 Pro, si on faisait l'exercice, on arriverait probablement à 50-50. T'sais, on arriverait sur aucune donnée probante pour dire, ben on le remarque tout de suite. Il y a certaines conditions, oui, là, ça assurait qu'on voit la différence quand un nouveau feature ou une nette amélioration.
Ouais. Ben, par exemple, la nacelle sur le Mini 5 Pro, très différente parce que là, on a l'effet presque 360. Fait que ça, déjà, c'était quelque chose d'intéressant. Je te dirais, la raison principale pourquoi j'ai changé au Mini 5 Pro, c'est pour la taille du capteur. Le capteur qui est passé d'un capteur à peu près d'un demi-pouce à un capteur d'un pouce. Pour moi, le dynamic range, la plage, ce qu'on appelle la plage dynamique, je sais d'expérience que je ne fais presque pas de retouches avec mon Mini 5 Pro. La photo est presque tout de suite correcte. J'avais l'habitude, puis on en a parlé quand on a parlé des drones, j'avais l'habitude de faire du HDR. Je continue de faire du HDR, mais 90% du temps, je me sers d'une seule photo dans ma série de 5, puis ça me rend parfaitement heureux. Ce qui n'était pas le cas nécessairement avec le Mini 4 Pro.
Ouais.
J'avais besoin de cette plage dynamique-là étendue.
Tu
simplifies tellement ma prise, ma retouche photo, parce que je ne fais pratiquement plus de retouches. La nacelle, je trouve la nacelle est le fun. L'autre truc que j'ai été très surpris, c'est la portée. La portée du drone, un sacrifice. J'ai jamais de. Ça ne baisse pas l'interférence. J'ai pas d'interférence.
Pas de perte de signal.
Tu sais, je suis en train de me justifier mon achat.
Assurément.
Peut-être. Mais cette réflexion-là, pour moi, ça n'en était même pas une.
Oui.
Je savais de toute façon que j'étais pour le prendre. Qui aurait été 10 % mieux, je l'aurais fait. Là, je considère qu'il est à peu près 40 à 50 % mieux. Tant mieux. C'est encore un meilleur deal. Mais si on vient à l'usager, moi, j'ai vendu mon Mini 4 Pro. Je l'ai vendu à quelqu'un qui ne me connaissait pas, qui ne m'a jamais vu. Mais j'ai dit, prends le temps d'aller voir les photos que j'ai faites. Il dit, je sais où tu travailles. Fait que lui, ça l'a rassuré. Il dit, mais je peux te trouver facilement. Fait que je dis, oui, tout à fait. Puis moi, j'ai vendu mon drone en parfaite. Tu sais, je dors la nuit. Là. Quand je vends mon équipement, je dors la nuit. Mais c'est pas tout le monde qui a la même conscience, si on veut. Tu sais, Il y a des gens qui vont vendre des produits qui sont semi-défectueux ou carrément littéralement défectueux. Au moins, dis-les qu'il y a quelque chose qui est défectueux.
Oui.
Juste pour la personne qui va l'acheter. La personne va peut-être l'acheter quand même parce que c'est une bricoleuse ou un bricoleur. Ou carrément, ce feature-là, ça ne l'intéresse pas. J'ai vu quelqu'un qui a acheté dernièrement un appareil photo avec un écran qui était
craqué
en arrière, qui ne marchait plus.
OK.
Là, il dit, j'ai acheté ça usagé. Fait que là, je viens le porter parce que je voudrais le faire changer l'écran.
C'est un beau projet. Même ça.
Pas d'idée combien ça va te coûter cher si tu ne le fais pas par toi-même. C'est les compagnies d'appareils photo. Remplacer un écran sur un appareil, il faut qu'ils démontent l'appareil au complet. Puis ils ne sont pas à 22$ à l'heure. Tu sais, ça travaille à 100$ à l'heure. Fait que. Puis le prix de la pièce, puis le transport, puis tout ça, ça ajoute, c'est un écran, c'est 600-700 $ en arrière d'un appareil photo. Si ton appareil, tu l'as payé 400$, Rajoute ton 700 $ t'es mieux d'en acheter un que l'écran que t'as pas brisé.
Exact. Oui, parce que là aussi, le temps parle pas, mais t'as le délai de réparation.
Ouais. Quelques semaines.
Quand c'est surtout que tu l'envoies, puis il va te revenir un jour, t'as pas de date, t'as pas rien, puis attends sa boîte à côté de la boîte aux lettres.
Ouais, chez nous, ça, ça a fait partie des choses qu'on a évaluées quand on reprend de l'équipement. Je reprends principalement des produits de la marque Canon, Nikon, Sony et Fuji.
Okay.
Pour les raisons suivantes, je sais que j'ai du service avec ces fournisseurs-là. C'est des compagnies qui ont une belle réputation. Nikon et Canon, là, on ne se pose jamais la question. C'est des produits de très, très bonne qualité. Le service est excellent. Canon, c'est probablement la compagnie qui a le service le plus rapide au niveau de la réparation. Puis, ce n'est pas des produits que j'envoie très régulièrement à réparer. Nikon, c'est la même chose. Puis je te dirais, le délai est à peu près le même là, chez Nikon et Canon. Canon est un petit peu plus rapide. Fuji, c'est un petit peu plus long parce que ce n'est pas réparé au Canada. C'est réparé à l'extérieur, aux États-Unis. Sony, c'est dispendieux à réparer. Fait que quand je reprends un produit Sony, je l'examine 22 fois parce que je veux être sûr que je n'aurai pas de problème avec. Heureusement, à date, c'est touche du bois. J'ai pas eu de problème avec les appareils Sony, mais quand ça brise, c'est le cancer généralisé. Vraiment, ouais.
OK. Puis, dis-moi, quand on ajoute un appareil, bon là, les boîtiers, c'est une chose, les drones, c'en est une autre, les téléphones aussi, combien de temps qu'on devrait les conserver de façon raisonnable? On s'entend, un boîtier, quand tu le vends sur Marketplace ou en boutique, peu importe, il y a encore beaucoup d'années devant lui encore.
Mais tu sais, un téléphone, tu peux faire facilement 5-6 ans avec un téléphone.
Oui.
Tant qu'à moi, là,
oui.
Tu peux faire facilement ça. On change-tu pareil aux 2 ans? Peut-être.
Il y en a qui le font.
Mais en principe, là, 5-6 ans.
5-6 ans, tu ne te trompes pas. Souvent, ce qui va faire en sorte que tu vas remplacer un téléphone, c'est la batterie. C'est les
améliorations technologiques. Le meilleur caméra, meilleur système de caméra sur. Parce que les gens photographient beaucoup avec des téléphones.
Oui.
C'est correct. Je n'ai pas de problème avec ça. Appareil photo, je te dirais, tu devrais avoir un appareil photo pour un minimum de 10 ans. Tu sais, ton appareil photo que tu achètes aujourd'hui, tu peux facilement faire 10 ans avec. Peu importe la catégorie, ça c'est étonnant, mais peu importe que c'est un entrée de gamme ou un appareil vraiment plus haut de gamme. Les plus hauts de gamme, souvent, les gens les abusent un peu plus, ils jouent plus rough avec.
Là, ben, oui, ils sont toujours avec.
Tropicalisés, ce qui veut dire, en fait, l'eau et la poussière ont une meilleure résistance, sont plus scellés, si on veut. Fait que ces appareils-là, souvent, sont liés au marché professionnel. Les professionnels, ça brasse son stock, là. Et c'est pour ça que je ne reprends pas tant d'appareils des professionnels. Souvent, le professionnel, il revient avec son appareil D850, puis il y a 400 000 déclenchements dessus. Là, il est raté à 300, mais il y en a 400. Là, c'est comme une voiture. Une voiture, tu as une garantie de 100 000 km. La 101 000e kilomètre, ton moteur ne lâche pas. Là.
Non, exact.
Tu peux faire des centaines de milliers de kilomètres avec et ne jamais avoir de problème.
Oui, justement, parlons des déclenchements là-dessus.
De parler de ça, qui est un appareil D1X de Nikon.
Sorti en?
En février 2001.
2001.
Que moi, j'ai depuis mars, fin février, début mars 2001.
Fait que c'est un appareil qui a 25 ans.
Il y a 25 ans, l'appareil. Il va avoir effectivement 25 ans dans quelques mois. Cet appareil-là, je ne suis pas sûr du rating, mais je te dirais, c'était probablement raté à 150 000. Déclenchement.
OK.
C'était la durée de vie qu'on anticipait pour cet appareil-là.
Sauf qu'à cette époque-là, il n'y avait pas une historique en arrière.
Non.
C'était le
aucun
premier
historique. Puis en fait, on se fiait un peu à ce que la version, les F5, les F4 qui étaient passés avant, qui étaient des tanks. Là.
Ouais.
Fait que quand ça s'est sorti, parce que ça, c'est pas un petit appareil, là.
Non, c'est un
gros appareil. L'espérance de vie, c'était 150 000 déclenchements. Puis aujourd'hui, 150 000 déclenchements, on est presque insulté. sais, dans le sens où, mon Dieu, c'est juste 150 000 ouais. parce que les gens font de la rafale à 12 ouais. ou 15 ou 20 ou même 30 images secondes.
Ouais, ouais.
Ça, ça fait de la rafale à 4,5 images secondes. C'est un 5 millions de pixels. Combien il y a de déclenchements sur cet appareil-là?
Écoute, tu me l'as dit tantôt, on va le gager un peu comme si je m'en rappelais pas, mais grosso modo, je t'avais proposé un 500 000, un 600 000.
Il y a 1,3 million et un peu plus. La dernière fois, je l'ai fait vérifier parce que moi, je ne peux pas le vérifier par moi-même. Il est allé chez Nikon pour un entretien, en fait, pour changer les gaines de caoutchouc.
Mm-hmm.
Puis j'aurais demandé de faire la vérification au niveau du déclenchement. Il faut dire que cet appareil-là m'a suivi pour des mariages pendant 17 ans aussi. Là, t'sais. Puis j'ai fait des photos de sport avec ça. Fait que ça a l'air beaucoup, 1,3 million, c'est beaucoup, mais j'avais un backup en plus.
Ouais.
Fait que cet appareil-là a 1,320 000. La dernière fois que j'ai fait vérifier, c'était en 2015.
Puis, mis à part les petits problèmes cosmétiques qu'on a vus, là, il est un peu graffiné. Mais pour le reste, tout fonctionne.
Il est 100% fonctionnel.
Fait qu'un appareil qui a 25 ans, même si c'est de l'électronique, puis qu'on s'entend de l'électronique, ça n'a pas toujours une bonne réputation. C'est une
électronique de base aussi, hein? Oui. Il y a 25 ans, là.
Mais ça reste que ça fonctionne. Il n'y a rien qui empêche
un champion.
Un D750 de fonctionner aussi longtemps, non, à la limite.
Écoute, j'ai vu, moi, j'ai un ami, pour ne pas le nommer, Vincent Étier de Sport du Nord, qui a des Z9, puis qui avait avant ça des D6, puis des D5. Puis lui, il t'amenait ça à des millions de shots passés avant de changer le shutter, parce que lui, il scrapait le shutter, puis il le changeait, parce que ça valait encore la peine de garder l'appareil pendant, parce qu'au bout de 3 ans, il avait son shutter était mort,
ouais,
à un point quelques millions de déclenchements.
C'est quand même des appareils qui sont plus dispendieux.
Oui, ça apparaît à 6 000, 7 000 $. Mais c'est robuste. C'est fait pour ça. Puis lui, ça valait la peine. Il changeait le mécanisme, il changeait le miroir, le rideau, puis il continuait avec son appareil parce que le nouvel appareil n'était pas encore sorti. Parce que ça aussi, c'est une autre affaire.
Ouais.
Les appareils sortent à des délais spécifiques. T'sais, on parlait tantôt de Z6 qui est sorti en 2018, fin 2018, début 2019. Ensuite, il y a eu le Z6 II en 2021.
Ah, je l'ai
dit. Puis ensuite, c'est devenu le Z6 III en 2025.
Ouais.
Fait que c'est quand même, il y a 2 ans et demi, 3 ans d'écart entre les appareils. En ce qui me concerne, dans l'évolution des appareils, c'est correct.
Oui.
DJI sort des drones à toutes les années. La série Mini, en fait, on a attendu un peu plus longtemps.
Ouais.
Le dernier Mini, on l'a attendu 2 ans.
Oui, habituellement, c'est au...
Mais les autres avant, c'est un an.
Ouais.
ça a été vite, là. Ça va oui. vite, là.
Non, c'est un marché... Ben, le drone est peut-être un marché qui est un peu à part parce que c'est un nouveau marché. Les avancées, présentement, ils vont vite. Ils ajoutent justement des lidars, des trucs qu'il n'y avait pas il y a 2 ans, mais que là, ils rajoutent tranquillement.
Des automatismes qui font des choses vraiment, tu sais, qui simplifient
oui.
la prise de vue, surtout en vidéo, là, qui simplifient beaucoup la prise de vue des automatismes au niveau de... Tu sais, carrément, tu lances le drone, puis il fait son move tout seul.
Oui,
t'es
oui.
rendu avec des autopilotes.
Oui, les Neo, tu peux... piloter sans manette, sans rien.
Sans manette, sans rien, en lui donnant des commandes vocales.
Exact.
Tu sais, on est rendu là, ça, avec un drone. Mais même le Mini, tu sais, l'autopilote, le cruise control dessus, tu peux carrément dire, roule à cette vitesse-là, puis garde cette vitesse-là. Moi, je vais juste manipuler la nacelle ou manipuler autre chose, l'exposition, par exemple.
Ouais.
Mais ton drone est toujours, toujours, toujours à la même vitesse constante. T'imagines pour la vidéo comment c'est le fun. Parce que... tu n'as plus à gérer et la vitesse, et la nacelle,
exact.
Et le yaw, et l'angle, ici et ça. Tu gères une affaire de moins qui est souvent c'était la vitesse qui faisait que les vidéos, on les regardait, on disait, oh, ça, c'est ouais, pas constant.
C'est... Non, exact. Ben, c'est là que tu vois un peu la différence entre un pilote qui commence et un pilote un peu plus expérimenté.
Un peu plus d'expérience, ouais, c'est ça. Ouais.
Fait que, mais si on revenait un peu à l'usager,
mm-hmm.
Bon, parlons boîtier, mettons. Pour toi aujourd'hui, là, on est à fin 2025, début 2026. Un bon deal, c'est quoi les bons appareils usagés qui peuvent faire en sorte que quelqu'un qui va chercher ça va être en mesure de l'utiliser? Ça, c'est une valeur sûre qui va durer longtemps.
Ouais. Ben, parlons de les deux plus grands, c'est Nikon, Canon, on va parler d'eux autres. Tout ce qui est chez Canon, tout ce qui est dans la série 70, 80, 90D, ces appareils-là sont excellents. Sérieusement. Ça, c'est une bonne qualité d'image, mais c'est aussi des produits bien conçus. Fait que ça, c'est une valeur sûre. C'est pas mal ce qu'il y a de mieux dans la série. Je dirais amateur enthousiaste.
Puis ça, aujourd'hui, ça se détaille à combien? C'est sur l'usager, grosso modo?
Dans le marché de l'usager, un 70D, tu payes ça à peu près 400$, entre 350 et 400. Okay. T'sais, un 80D, un petit peu plus, centaines de pièces de plus. Un 90D, c'est plus récent, pas mal.
Okay.
Fait que tu vas payer quoi? Un 600, 700, 750? Tout dépendant de l'usure.
Oui. Puis à l'état neuf, ça valait combien, ça?
Ben, par exemple, un 90D, je me rappelle plus de celui-là parce que c'est le dernier qui est sorti. Je dirais 1700$, 1800$ okay. Le boîtier. Aujourd'hui, ben, tu vas le payer entre 600 et 900$ dépendant là, de l'usage, hein, l'aspect cosmétique.
Naturellement, oui.
S'il y a un petit bonus qui vient avec, as-tu trois batteries, as-tu oui. un deuxième chargeur.
As-tu un objectif, t'as-tu...
C'est ça, t'as-tu exactement. Ça. Tout ça, ça vient avec. Si on regarde la série Rebelle, parce qu'on a aussi fait des Rebelles, les Rebelles, c'est pas des mauvais appareils. Le rapport qualité-prix de ces appareils-là est excellent. Tout ce qui est un Rebelle T6, T6i, T7, T7i, c'est des appareils qui ne sont pas si vieux que ça, qui ont maximum 10 ans, on va dire. Puis, c'est des bons appareils.
Ça, c'est l'entrée de gamme.
L'entrée de gamme, chez l'appareil amateur, ce qu'eux appellent l'appareil amateur.
Okay.
Chez Nikon, la série 7000, qui est la série amateur enthousiaste, série 7000, 7100, 7200, 7500. Pas tuable, ces appareils-là. J'ai encore un DC-1000 qui doit avoir 300 000 shots. Là,
OK.
Encore, que j'ai mis à vendre d'ailleurs il n'y a pas longtemps.
Lui aux intéressés.
Mais pour vrai, l'appareil est en parfaite condition. Il a l'air neuf. Tu sais, parce que moi, je fais attention à mon matériel aussi.
Ouais.
Si tu regardes la série d'entrée de gamme, là, c'est un peu plus délicat parce que il faut regarder le 3400 ou le 3500. Ça, c'est vraiment les entrées de gamme.
Mm-hmm.
Ces appareils-là... L'usager, tu vas payer ça 300, 325$ avec un objectif
ouais.
dessus. Là. Puis si tu es chanceux, la personne veut juste s'en débarrasser à 200$. Même chose pour les Rebelles, d'ailleurs.
Ouais,
si tu regardes la série 7000, évidemment, les appareils plus robustes, un peu plus de qualité. Mais un D7000, ça vaut à peu près quoi 350$, 325$. Un 7100, rajoute 50 à 100$ de plus. Un 7200 rajoute un 50 à 100$ de plus par-dessus l'autre. Puis un 7500 autour de 700$. Là. Parce qu'aujourd'hui, ça se vend quoi? 1000$, 1100$.
Mais tu sais, tu vois, mettons, pour un D700, tu vois, sur Marketplace, quand j'ai fait l'exercice, j'en ai vu à 500.
Oui.
Des D800, mettons, 810. Ici, j'en ai vu à 600.
Mais là, tu vois, le D700, c'est quelque chose de particulier. Le D700, c'est devenu, avec le temps, un appareil, un classique
de oui.
série. Un peu comme le F5 dans la série appareil à pellicule, c'est un classique. Un peu comme un Hasselblad est un classique. Fait que le D700, malgré que c'est un appareil qui est sorti en 2008,
oui.
ça fait longtemps, le 2008.
Je l'ai gardé longtemps, moi j'en ai eu.
Il n'y a plus de service là, sur cet appareil-là. Je n'y reprends pas ceux-là. Pas parce que je les aime pas, je les adore. C'était été un de mes appareils favoris.
Ah, moi je l'ai adoré.
J'ai adoré cet appareil-là, mais je ne peux pas le reprendre en usager parce que je ne peux plus le faire réparer. Il n'y a plus de pièces, il n'y a plus de service. Quand je reprends, quand l'art photo reprend un appareil photo en usager, la première règle, c'est que, bon, il est inspecté, tout ça, mais il faut aussi qu'il soit réparable.
Oui.
Fait que moi, quand j'ai un appareil, j'ai un doute, j'écris avant à Nikon ou à Canon ou peu importe, à Sony, à Fuji, est-ce que vous avez toujours la possibilité de faire le service sur cet appareil-là, quand j'ai un doute? J'ai une liste, mais des fois, la liste n'est pas toujours à jour. Des 700, je le reprendrais parce que j'ai une affection pour cet appareil-là, mais je ne peux pas le faire réparer.
Ah, écoute, moi, j'en ai eu un. Je pense que je l'ai gardé autour de entre 8 et 10 ans.
Écoute, j'en ai eu un, je l'ai vendu. J'en ai racheté un autre il y a 2 ans okay. parce que c'est Par un amour. Classique. C'est un classique. Je m'en sers pas souvent. C'est comme celui-là. Je m'en sers encore, mais pas souvent. Mais c'est nostalgique. C'est quelque chose de... Tu sais, si on a les moyens aussi de les avoir, Tu sais, moi, ces appareils-là, ils ont, j'ai été chanceux, le D700, je n'ai pas payé 500, j'ai payé comme 300$.
Ouais.
Fait que, tu sais, je me disais, je ne peux pas passer à côté de ça. Je l'ai racheté, je l'ai mis dans ma vitrine. J'ai une vitrine oui, avec des appareils.
Parce que c'est ça, tu as un genre de petit musée.
Ouais, j'ai un petit musée chez nous. Là, j'ai comme à peu près 80 appareils dedans. Mais, puis je ne les ai pas tous, là, je ne les ai pas tous mis parce que je n'ai pas de place. Ouais. C'est une verrerie que j'ai transformée en...
Un genre de buffet.
C'est un buffet, j'ai tout enlevé les patentes de vaisselle. Je mets des appareils photo là-dedans. C'est chouette. Ça fait jaser. Avec des petits éclairages comme ça. Là. Ça fait jaser. Mais pour vrai, la série Pro chez Nikon, c'était la série D avec un chiffre. D1, D2, D3, D4, D5, mm-hmm. D6. Un D6 qui est encore réparable aujourd'hui, comme un D5... Si tu n'as pas 300 000 shots dessus, là, c'est toujours un bon deal. C'est encore des appareils très, 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 très performants.
Ouais.
Même par rapport aux appareils sans miroir, c'est encore des tanks. Là. Ça, j'aurais pas peur d'échapper ça à terre. Mais j'aurais un peu plus peur d'échapper un Z8 à terre. Tu sais, je serais un peu plus nerveux,
oui.
Mettons. J'ai eu un D2X que j'ai échappé je ne sais pas combien de fois à terre, que j'ai encore d'ailleurs, qui est dans mon sac.
On en a tout échappé un boîtier.
Mais je touche du bois, j'ai jamais eu à aller au service chez Nikon pour aucun de mes appareils, à part celui-là pour faire changer les caoutchoucs deux ou trois fois, je te dis.
Okay.
Parce qu'ils n'étaient pas très bien fixés, les caoutchoucs là-dessus. Mais des problèmes mécaniques, d'électronique, Nikon, jamais. Jamais.
Parce que toi, même pour la série Z, qui est la série la plus récente, les premiers, on se rappelle, à août 2018, ça se vend encore, ça se vend en usager. Bon, les prix, naturellement, sont un peu plus élevés.
Un Z6 va valoir à peu près 1000$, 900$.
Oui, exact. C'est à peu près les prix. Un Z5, 1100. Z6, 2008. 2007 pour un Z7 II.
Oui.
Fait que, tu sais, c'est des appareils qui se vendent encore, mais il y a des deals à faire de ce côté-là.
Oui, 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 tellement. Puis... Tu sais, il sortit un Z6-3, fait que les gens qui avaient un Z6-2, qui ont eu la tentation pour le Z6-3, ben ils vendent leur Z6-2. Là.
Oui.
Le Z6-2, c'est encore un excellent appareil aujourd'hui. Là.
Oui.
Il n'y a pas eu 1000 ans, cet appareil-là. Il y a 4 ans ou 5 ans maximum. Fait que tu vas faire quoi? Encore 7, 8 ans, 10 ans avec?
Exact. Parce que ça, c'est une autre affaire aussi. Tu sais, là, on parle des boîtiers. Mais il y a les objectifs aussi.
Hein?
Les objectifs, bon, eux sortent un
plus
peu...
Plus délicats, hein?
Plus délicats, oui. Eux autres, quand ils échappent, ça paraît un peu plus.
Ça, oui.
mais là aussi, il y a des deals. Si on va, mettons, dans la série Reflex, qu'on veut acheter de l'usager, il y a des sacrés bons deals. Moi-même, quand j'essaie de vendre, j'ai une 105 mm à vendre que j'ai payé probablement autour... C'est ça, dans ces eaux-là. Ouais. Aujourd'hui, à 450, j'ai aucun appel, là.
Pourtant.
Et pourtant.
Cette optique-là est extraordinaire.
Exact.
Tu sais, puis quelqu'un qui voudrait profiter de ce deal-là, il ferait un deal d'enfer, même à 500$. Là.
Oui.
Tu sais, puis je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps, il y a reculons 2 ans, ils se vendaient encore 700$, ces objectifs-là.
Oui.
Mais le marché a tellement pivoté vers le sans-miroir qu'il en est venu de plus en plus sur le marché du même modèle. Alors, tu sais, c'est toujours la règle de l'offre et de la demande.
Exact.
Du coup, tu es prêt à payer pour ça. Je sais très bien que si je rentre un D7500, par exemple, en usager, j'aurai aucune difficulté à le vendre.
Oui.
Dans les appareils réflexes, cet appareil-là, il a une super cote. Les D850, j'en sens en usager, j'ai aucun problème à vendre ça.
Quand tu dis que tu n'as aucun problème, généralement, quand tu l'ajoutes d'un particulier puis que tu le mets à vendre, tu les gardes combien de temps, règle générale, à peu près?
Mon best case scénario, il faut qu'il soit parti dans les 30 jours.
OK.
Pour qu'il soit intéressant au niveau profitabilité, il faut qu'il soit parti en 30 jours. Fait que je le rachète à un prix pour, moi, le vendre à l'intérieur de 30 jours.
Ouais.
C'est au prix du marché, mais gardons en tête que moi, je suis une boutique.
Oui.
Alors, je dois vendre avec des taxes qui s'appliquent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que mon bonus, c'est que je donne toujours une garantie. Tout produit qui est vendu, des fois, je donne 6 mois de garantie sur certains produits parce que je sais qu'il ne brisera pas. Un D850, là, faut que tu te mettes dessus puis tu varges dessus pour qu'il lâche.
Ouais, faut que tu y mettes du tien.
C'est fait robuste en tabarouette. Il faudrait vraiment être malchanceux. Là, quelqu'un qui traite bien son équipement, souvent, c'est des gens qui ont... le marché de la photographie, c'est pas tous des jeunes de 20 ans. Là. C'est, qui achètent des appareils photo, c'est plus dans les 35, 40, 50, 60.
Il faut que tu aies un budget.
Puis, c'est des appareils qui, malgré tout, se vendent dans les milliers de dollars en usagers. Un 850, c'est quand même 2 500 $ usagés. Là, un 9, tu vas le payer 3 000 $ à peu près en ce moment, je pense qu'il est en spécial. Là. Fait que quand tu achètes ce produit-là usagé, tu achètes un produit de super haute qualité. S'il n'y a pas beaucoup de déclenchement, youpi. S'il y a une garantie de 3 mois, double youpi. Tu es super content.
Fait que la différence principale, à la limite, entre un marketplace puis de l'acheter en boutique pour ton usager, c'est oui, d'un côté, tu vas payer des taxes que tu ne paierais pas sur un marketplace, mais en contrepartie, tu vas avoir une garantie si tu as un problème.
Tu as une garantie, c'est rassurant. Puis l'appareil, tu le sais qu'il est inspecté. Puis si, tu sais, là, je ne veux pas prêcher nécessairement pour ma paroisse, mais tu sais, après 30 ans de rachat de produits usagés, forcément, je sais où regarder. Il y a des trucs qui ne pardonnent pas. C'est que tu sais tout de suite, oh, ça ne marche pas. Il y a un lousse dans un objectif. On parlait d'objectif tantôt. Les gens ne réalisent pas à quel point c'est fragile, un objectif.
Oh oui.
Oui. C'est vraiment très. Même les objectifs très, très dispendieux sont très fragiles. Tu le cognes un coup, tu peux désaligner littéralement une lentille dans ton objectif. Fait que ça fait en sorte qu'il ne focus plus très bien ou il ne focus plus à la même vitesse. Les moteurs de mise au point, parce qu'il y a beaucoup d'objectifs qui ont des moteurs incorporés. Ces moteurs-là, autrefois, c'est des moteurs à pulsion. Aujourd'hui, c'est des moteurs magnétiques.
Okay.
Fait que ils sont carrément, les lentilles qui génèrent la mise au point sont dans le vide. Ils tiennent dans le vide. Là. Quand tu allumes l'appareil, puis la lentille se soulève, puis elle se promène librement. Fait que quand tu désengages ta mise en tension, donc quand tu mets à off, la lentille, pom, elle retombe dans l'objectif. Fait que souvent, tu prends un objectif, tu te brasses d'un côté à l'autre, tu entends clink, 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 clink. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui est défectueux.
Mais pas nécessairement. Mais
pas nécessairement. Tu sais, il est juste hors tension. Fait que quand tu le remets sous tension, la lentille remonte, puis là, elle est prête à bouger d'en avant en arrière. Fait que ces objectifs-là sont fragiles quand même. Plus tu recules dans la génération des objectifs, plus c'est deux séries de deux tiges sur lesquelles se promène ton optique. Fait que les vieux objectifs qui ont 30 ans, ben, Nikon Canon, c'est pas trop un problème. Mais tu achètes un Pentax qui a 30 ans, c'est un peu plus douteux. Là, il y a un petit peu plus de chances qu'il soit sur sa fin de vie. Mais les objectifs à mise au point, j'appelle ça un mise au point mécanique. C'est toujours autofocus, mais à mise au point mécanique. Par exemple, chez Nikon, la série AF, et non pas AFS ou AFP, mais juste bien AF, ça prenait un moteur dans l'appareil photo que ça et beaucoup d'autres appareils ont. Le moteur est dans l'appareil photo. Alors, l'objectif, sa mise au point, elle est faite par un vilebrequin qui est connecté à l'objectif.
OK.
Fait que c'est beaucoup moins fragile. Il y a à peu près rien qui peut briser là-dedans. Fait que quand tu cognes ça, ces appareils-là, ces objectifs-là étaient super robustes. Le jour où ils ont mis des moteurs à pulsion, des moteurs électroniques, si on veut,
ça change.
Un peu plus fragile. Fait que là, quand je rachète, par exemple, un 105 macro, un classique, la première chose qu'on fait, c'est qu'on tourne l'objectif pour la mise au point pour voir si ça fait « i, 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 i ». Ton moteur est sur le point de lâcher. Là.
Okay.
Tu checkeras le tien. Quand tu le tournes rapidement, puis il fait « i, 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 i », c'est qu'il n'y a plus de graisse à un moment donné, puis là, à un moment donné, il a besoin de...
D'un peu d'aide. Ils sont
plus réparables, ces objectifs.
Ouais.
C'est triste, là. On est rendu là.
Une question que je ne t'ai pas posée par rapport au neuf. Bon, on parlait tantôt justement que tout ce qui était neuf avait tendance quand même à sortir
rapidement.
Rapidement. Ouais. Moi, je me demandais, pour une boutique photo, est-ce que c'est un problème, la gestion justement de tout cet équipement-là, d'avoir à gérer des modèles qui sortent de façon rapidement pour remplacer les précédents?
C'est une excellente question. Je te dirais, si tu gères bien ton inventaire, en principe, c'est pas un problème.
OK.
Mais les gens pensent à tort qu'on sait d'avance quand quelque chose va sortir.
Ben non.
Souvent, et là, c'est pas des jokes, j'ai le mémo 24 heures avant.
OK.
Puis 24 heures, puis sous, ne pas, aucune, je ne peux pas révéler le contenu de mon courriel, puis il faut que je le signe.
OK.
Que je le retourne à Canon ou à Nikon ou à Fuji ou à Sony, peu importe. Sony, c'est moins problématique, mais les compagnies comme Canon, Nikon et Fuji, c'est un release à signer comme quoi ils te présentent le produit quelques jours, des fois, un jour avant.
Pour te permettre de le commander.
Oui, des fois, un petit peu plus avant. Fuji, ça arrive qu'ils nous le montrent un petit peu plus avant. Mais je n'ai pas le droit d'en parler. Des fois, ça arrive que, par exemple, dans le cas du, c'est arrivé dans le cas du Z5, le Z5 II a été annoncé sans qu'on ait même... Il n'y avait même pas de rumeur pour un Z5 II. Puis le Z5 II, entre le Z5 II et le Z5, il y a quand même une bonne amélioration, surtout au niveau du système de mise au point. Puis on avait beaucoup de Z5 en stock. Bien, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on les a vendus moins cher parce que Nikon a donné une ristourne plus importante pour ce produit-là. Si les gens savaient comment ça fonctionne, le marché de la photo, ils tomberaient sans connaissance. Les gens pensent qu'on fait 20-30 % là-dessus. Sérieux, en fait, des fois, on ne fait même pas 10 %.
Ben, c'est le principe un peu des produits Apple. Tu fais ta marge sur les accessoires.
Tu vends au volume les produits, puis tous les accessoires autour sont un peu plus rentables, oui. Effectivement. Mais souvent, puis des fois, les gens me challengent, tu sais, voyons, ça se peut pas que tu fasses 10 % là-dessus. Je tourne carrément l'écran d'ordinateur, puis je dis, regarde, ça, c'est le prix, je le vends. Ça, c'est le prix, je le paye. L'ordinateur, il ment pas, lui.
Oui.
Fait que là, ils font comme, ben ouais, ça n'a pas de bon sens. Je sais que ça n'a pas de bon sens.
Tu as aussi les compagnies comme DJI qui forcent le prix, qui est là, que tu t'ajoutes ton drone dans la boutique A, en ligne ou n'importe où.
C'est tout le même.
C'est la même affaire.
Ouais. Bien, les accessoires ont fait un peu plus. C'est une boutique comme L'Or Photo existe et continue d'exister parce qu'on ne fait pas juste vendre des appareils photo.
Ouais.
Si c'était ça, sans joke, on ferme demain. Là. C'est fini. Ça tombe demain. C'est pas des jokes là, que je fais là.
Ouais.
Mais on est tellement diversifié dans tellement d'autres choses, dans le service, dans l'impression, dans les accessoires. On a des tonnes d'accessoires où on fait plus que 10 % il faut parce que.
Oui, mais il faut les payer, ces salaires-là.
Pour qu'une business survive, il faut qu'elle fasse un minimum de 20 % de profit.
Mais à la limite, ma question peut paraître naïve, mais dans ce cas-là, un produit comme DJI, que le prix est le même partout, c'est quoi l'avantage que j'ai d'aller dans un versus l'autre?
C'est ça, la question du jour. Pourquoi j'irais l'acheter chez vous quand je peux l'avoir, peu importe, chez un marchand. Peu importe un marchand, mais aujourd'hui, c'est plus juste un marchand.
Ouais,
je peux l'acheter chez DJI.
Oui, qui te le livre en deux jours.
Parce qu'eux autres, ils l'ont, le stock.
Ben oui.
Tu sais, moi, quand il sort, il est annoncé le 5 mars, il sort le 5 mars. Moi, je ne l'ai pas en stock le 5 mars. Là. Je l'ai des fois le 10, le 15, le 20. Ça dépend de combien qu'ils en ont vendu à l'externe. Alors, pourquoi ils achèteraient chez nous? Confiance, premièrement. La personne en arrière du comptoir connaît le produit parce qu'elle l'utilise, le produit.
Oui.
Fait que, elle va te dire, écoute, si tu l'achètes dans ce but-là, c'est peut-être pas le produit idéal, il y a peut-être ça qui serait mieux. Tu sais, ce que Amazon ne te dira jamais.
Non.
Mais en même temps, ce que j'entends tout le temps, ouais, monsieur Amazon, c'est pas grave, je peux le retourner. C'est, puis,
oui.
Fais-tu le marché local, mais c'est comme ça. C'est, on deal avec ça tous les jours. T'sais, tous
ouais.
les jours, on deal avec
mais
ça.
Mais Amazon, pour moi, puis je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui ont le même rapport à mon haine.
Je m'attends un peu à ce que tu vas dire.
Mais, tu sais, Amazon, pour moi, c'est un dépanneur.
Carrément.
C'est que tu as besoin du petit fil. Que tu veux l'acheter en boutique, mais tu ne sais pas du tout où aller parce que ça ne se vend plus nulle part, ben tant mieux, tu as Amazon.
Ouais.
Mais acheter un boîtier par Amazon ou par n'importe quelle autre compagnie, j'ai un problème majeur parce que tu ne sais pas d'où ça part, tu ne sais pas ta garantie.
Et là, tu nous amènes à une place
oui.
que peu de gens connaissent.
Le gray market.
Le gray market. Si tu achètes un produit, Je donne l'exemple de Nikon parce que on ne prêche pas nécessairement pour Nikon, là, mais Nikon, c'est une compagnie, puis Nikon Canada, c'est une compagnie, Nikon USA, c'est une autre compagnie.
Séparé.
Nikon France, Nikon England, Nikon Philippines, Nikon Japon, c'est toutes des entités indépendantes.
Exact. Ils sont chacun de leur bord.
Ils sont reliés à une maison mère qui s'appelle Nikon Incorporated. OK? Si tu achètes sur Amazon, parce que tu as décidé qu'il était 8$ moins cher sur Amazon, c'est souvent ça. Hein? 8-10$ moins cher, tu te dis, en plus, je vais l'avoir demain parce qu'il livre demain. Bon, OK, tu l'achètes sur Amazon. Ce produit-là, s'il vient d'un revendeur autorisé canadien? Parce que moi puis toi, on pourrait se partir une business sur Amazon et revendre des produits qu'on pourrait acheter de Nikon Canada ou du centre de distribution de Nikon Canada.
Oui.
Mais on pourrait aussi l'acheter directement des Philippines. Le produit, il nous coûterait moins cher avec l'échange et tout ça. Il nous coûterait moins cher.
Mais
le problème est le suivant. Si tu achètes un produit sur Amazon qui ne vient pas d'un distributeur officiel canadien, je ne fais pas de blague, là, le produit n'est pas réparable au Canada.
Est-ce que ta garantie est honorée?
Non.
Non plus.
Ni la garantie, ni le service de réparation va être fait. Et je ne te blague pas.
Et pourquoi qu'il n'est pas honoré le service?
Parce que les marchands, en fait, les entités Nikon ont décidé qu'elles respectaient leur marché local.
Le marché
Nikon Canada, c'est tout le Canada.
Oh, oui.
C'est pas juste Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est vraiment le marché au complet au Canada. Canon procède un peu différemment. Canon, c'est Canon America. Alors, c'est vraiment États-Unis-Canada.
C'est la même chose pour eux.
C'est la même chose. Fait que si tu achètes un objectif Canon en Floride, puis qu'il y a un problème, tu peux le faire réparer au Canada. Ça va passer sous la garantie Canon. Mais un produit Nikon qui a été acheté aux États-Unis avec le numéro de série américain, quand il arrive au Canada, et je te blague pas là. Moi, si je m'en rends pas compte, parce que ça se peut que je m'en rende pas compte, avec le numéro de série, si j'envoie ça chez Nikon Canada pour le faire réparer, parce qu'on fait toujours réparer les produits chez le fournisseur de la marque du produit.
Oui. Okay?
Nikon Canada, chez Nikon Canada.
T'envoies pas ça chez un jobber.
Non, parce qu'il y en a pratiquement plus non plus.
Oui.
Alors, quand le produit arrive chez Nikon Canada pour être réparé, eux autres,
c'est la première affaire qu'ils checkent.
Le numéro de série vient d'un distributeur canadien, font un estimé s'il n'est pas sous garantie ou carrément répare sous garantie s'il est garanti. S'il ne vient pas d'un distributeur canadien qui est acheté dans un autre pays, il nous renvoie le produit à mes frais de transport qu'il m'envoie. Fait que moi, ce frais-là, il faut que je le recharge au client en plus. Ça, c'est l'insulte.
Oui.
Mais il faut que le produit retourne dans son pays d'origine pour être réparé.
Fait que toi, t'es allé, mettons, à New York, t'as vu un deal, tu t'es dit, je vais l'acheter là.
Chez BH,
pour ne pas les nommer. Ben, si t'as un problème, tant pis pour toi, mon ami, il faut que tu retournes à New York le faire réparer.
Ou tu l'envoies par la poste, peu importe. Mais là, t'as un autre problème parce qu'il faut que tu l'envoies, il faut que ça passe tes douanes. C'est pas simple, un produit qui vient des États-Unis.
Puis envoyé par la poste, il faut que tu payes une assurance aussi. Si tu veux être sûr qu'il te revienne dans un seul morceau.
Puis on parlait de BH, là, parce que BH Vidéo, c'est probablement le plus gros revendeur de produits en Amérique. Là. Assurément le plus gros. Si tu regardes, quand tu magasines un produit Nikon, c'est écrit « No shipping to Canada ». C'est littéralement écrit.
Fait que non seulement tu n'as pas de garantie, mais en plus, tu n'es pas réparable. Fait que tu fais quoi concrètement? Tu fais rien?
Faut que tu le retournes dans son pays d'origine. Faut que tu trouves le pays d'origine. Mettons, s'il a acheté sur Amazon,
ouais.
Il vient d'où? Ça fait un an et demi, mettons. Là, ça fait un an et demi, tu retournes. Le revendeur Amazon n'existe peut-être même plus. Parce que lui, il a eu assez de troubles qu'il s'est changé d'identité.
Oui, puis après un certain temps, peut-être qu'il s'en fout. Il ne va pas honorer une garantie qu'il ne peut pas honorer.
Lui, en fait, Amazon.com, ou Amazon.ca, peu importe, c'est des grosses entités. Eux, comment on appelle ça? Ils ont une politique comme quoi tu peux retourner à l'intérieur de 30 jours.
Oui.
Une excellente politique pour quelqu'un qui achète. OK? Ça veut dire que Jarold pourrait acheter un Z8 sur Amazon, puis dans 4 jours, il n'est pas satisfait, remballe ça, puis demande un remboursement. Si tu as retourné ça dans la boîte avec tous les accessoires, tes chances de remboursement sont à peu près de 100%.
Je t'en reviens un peu. Bon, retournons un peu dans l'usager.
On retourne dans l'usager. Nous, on jase un peu trop.
Ouais, on se promène. Écoute, c'est quoi les risques quand j'achète de l'usager? On en a parlé un peu, mais tu sais, si on parle un peu du drone, bon, tu sais, tu as l'historique du drone quand tu achètes de quelque chose que la personne que tu ne connais pas, elle peut l'avoir crashé, tu le sais pas, tu n'as pas nécessairement au niveau de Transport Canada, tu es censé avoir un historique de contenir tout ça dans un cahier, mais physiquement, il n'y a pas grand gens qui le font, encore moins pour des micro-drones.
Moi, je ne les reprends pas. Les drones, je ne les reprends pas pour les raisons qu'on a nommées, parce que je ne sais pas ce que tu as fait avec. Tu as beau me dire, oui, j'ai fait ça. Je peux aller vérifier ton historique de vol.
Oui.
Je peux savoir exactement combien d'heures tu as volé. Je peux avoir vraiment, très précisément, même savoir où tu as volé.
Mais à la limite, c'est pas ça qui va faire en sorte qu'il perde la valeur.
Ça veut pas dire qu'il est en bonne condition, ton drone.
Non.
Ça veut juste dire que 22 heures de vol, 32 heures, 102 heures, ton historique de pilote va me donner une idée pas mal pour chacun des drones que tu as eus. Qu'est-ce que, tu sais. Mais moi, je n'y reprends pas. L'autre chose qu'il faut savoir par rapport au drone, et ça, c'est par rapport au drone DJI, je devrais dire, c'est DJI qui s'occupe du service. S'il y a un problème, ton drone, tu l'achètes. Et ça, c'est nous, ça nous peine beaucoup parce qu'on aime ça, nous, on aime ça emmitoufler nos clients. Tu sais, le client qui achète un produit chez nous, le service chez nous, c'est hyper important.
Mm-hmm.
Et j'ai un problème avec DJI parce que si je vends un produit DJI, s'il y a un problème dans 3 jours avec son produit, je ne peux même pas y offrir le service. Il faut que je l'envoie à DJI. DJI ne veut même pas qu'on s'implique dans ce processus-là. C'est beaucoup plus rapide si le client le fait lui-même.
Fait que tu ailles le DJI Care ou non, ça ne change rien.
Ça ne change absolument rien. Mais à la défense de DJI, ils ont un service incroyable.
Oui.
Rapide. Ça ne bug pas souvent. Tu as un problème avec ton... Même ma télécommande, je l'ai envoyée parce que je pensais qu'il y avait un problème avec. Je l'ai envoyé un jeudi. Le lundi, il était revenu chez nous. Ça, là,
c'est rapide.
Trouve-moi une compagnie qui est aussi rapide que ça. Parce que ça va quand même à Mississauga, là.
Ouais, ils ne l'ont pas gardé longtemps, là.
Ça veut dire qu'ils l'ont rentré, ils ont tout de suite analysé, ils ont été voir c'était quoi le problème potentiel. Puis ça m'est arrivé avec un drone aussi. J'ai eu un Mini 4 que j'ai eu un problème avec. Je l'ai retourné en expliquant mon problème très clairement, en envoyant des exemples. Ils ont carrément, encore là, c'est un mercredi, je me souviens très bien, c'est un mercredi, puis le lundi ou le mardi suivant, j'avais un nouveau drone.
Oui.
Ils n'ont pas réparé.
Non, ils réparent.
Ils m'ont envoyé un nouveau, flambant neuf. J'étais comme assommé par la qualité, la vitesse du service. Puis tu as toujours un très bon contact. Non seulement ça, ils m'ont appelé chez nous le soir. Ils ont vu que j'avais récupéré mon drone. Ils m'ont appelé le soir, est-ce que vous êtes satisfait du service? Est-ce que le drone fonctionne bien? Mais en même temps, les compagnies comme Nikon, Canon, j'inclus Fuji, Sony là-dedans, quand c'est un produit sous garantie, jamais de problème. C'est pas un problème. C'est rapide, c'est relativement rapide. Un peu moins avec Sony et Fuji, mais on parle pas de 2 mois de réparation. Le plus que ça va prendre, c'est 3 ou 4 semaines. T'sais, chez Nikon, ça arrive souvent que c'est 1 semaine à 10 jours. Chez Canon, des fois, c'est même pas 1 semaine.
OK.
Le produit est envoyé, moi j'envoie par Puro Later. Ils l'ont des fois le lendemain. Ils diagnostiquent, réparent, puis me le rechippent. Des fois, je l'ai dans la même semaine. C'est incroyable.
C'est rapide, ouais.
C'est un Moses de mon service.
OK.
Canon.
Écoute, on a fait un peu le tour. Bon, on s'est demandé combien de temps qu'on devrait garder nos appareils neufs. C'est quoi les bons deals à avoir côté usager? Pourquoi je devrais aller vers l'usager à la limite versus du neuf? Bon, là, on va parler un peu plus différent un peu. Qu'est-ce qui s'en vient? Tu sais, comme on le voit que les appareils sortent aux 2 ans à peu près en moyenne, tout dépendant. Toi, par exemple, dans un boîtier, ça serait quoi que tu aimerais avoir dans une prochaine version? Qu'est-ce que tu dis?
Ça
serait cool à voir.
Tellement ça. Des bonnes questions. Mais moi, je suis pas un utilisateur difficile.
Okay.
Parce que le type de photo que je fais ne me demande pas grand-chose de très avancé technologiquement. Mon appareil, j'ai un Nikon Z9, là, je ne me cache pas, mais entre autres, mais c'est mon appareil que j'utilise le plus. Il fait bien plus que ce que je suis capable de faire. Fait que je peux difficilement m'imaginer qu'est-ce qu'il pourrait faire de mieux. Il pourrait faire mieux encore au niveau du système de mise au point. Puis déjà, il fait plus que ce que je m'attends. OK? Parce que je sais que ces appareils-là sont comparés à Canon, sont comparés à Sony, entre autres.
Oui.
Puis, mettons Fuji de côté parce que c'est des appareils de type APS-C, qui est une autre catégorie d'appareils, mais restons dans le full frame. Je te dirais peut-être que le système de mise au point, j'ai rien à dire sur la qualité, la gestion des couleurs, gestion de la qualité du fichier, une rafale plus rapide parce que les autres le font. C'est juste pour ça, là.
À la limite, t'en as-tu besoin?
J'en ai pas besoin. Je calcule qu'à 20 images secondes en RAW, que je peux tenir une centaine de RAW en continu sur mes cartes mémoire qui sont hyper rapides. Je peux pas m'imaginer vouloir plus que 20 images secondes. Ben, à 24, c'est de la vidéo, là.
Ah ouais, ben exact. À la limite, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu sais, ton oiseau, il ne se mettra pas à te faire des moves pendant une demi-heure.
J'ai quelque chose. Oui, je tiens quelque chose. Tu as parlé d'oiseau. Je fais à l'occasion de la photo d'oiseau. J'aimerais ça que, parce qu'il y a un pré-déclenchement chez Nikon, ben, maintenant dans toutes les marques. Mm-hmm. C'est Nikon qui a parti ça, mais ça existe dans toutes les marques aujourd'hui. Le pré-déclenchement fait en sorte que quand ton doigt engage la mise au point, l'appareil
commence déjà enregistrer.
Commence déjà, sans même qu'il prenne de photo. Il enregistre la dernière seconde avant que tu commences à déclencher. Fait que tout ce qu'il y a eu une seconde avant que tu déclenches, l'appareil l'a enregistré sans que tu aies déclenché. J'aimerais ça que ça, le pré-déclenchement et le post-déclenchement soient en RAW chez Nikon.
Okay.
Il est en JPEG seulement. Tu ne peux pas avoir ça en RAW. Ce que Canon fait et ce que Sony fait aussi. À cette heure, combien de fois j'ai eu besoin de pré-déclenchement dans ma vie? Je te dirais zéro. Zéro fois.
Ouais.
Mais
c'est un nice to have.
Quelqu'un qui fait de la photographie d'oiseaux sérieux, qui fait de la photographie sportive de façon sérieuse, on dit toujours que c'est l'instant décisif, le moment décisif, la photo. Par exemple, quelqu'un qui fait de la photo d'oiseaux, le moment où l'oiseau part à décoller, c'est souvent là qu'on va avoir les photos. Si tu as manqué la première fraction de seconde, ben ton pré-déclenchement l'a enregistré, lui.
Ouais.
Si je pouvais avoir ça en RAW, là, ça me rendrait tellement heureux.
Ça serait une option de plus dans ton coffre aussi.
En même temps, c'est à moi de me pratiquer un peu plus,
ouais,
puis de mieux comprendre comment l'oiseau se comporte quand il est prêt à décoller. Il y a des signes. Les gens... gratification instantanée, là, c'est, tu sais, la photo, les gens ne s'imaginent même pas comment aujourd'hui la photo, c'est facile.
Ah oui, ça
par peut rapport être... à, si je recule à l'époque, la pellicule qui avait ni autofocus, beaucoup d'appareils n'avaient pas de moteur. Moteur, c'est l'entraînement, là, la rafale, si on veut. On faisait ça à main, là. La mise au point à main, tout était fait.
Disons qu'aujourd'hui, ça pardonne beaucoup plus qu'avant.
Ça pardonne énormément plus. Mais ça me fait penser, parce que là, tu parles d'amélioration. Là, on est le 20 décembre. Il y a quelques jours seulement, il y a eu encore une mise à jour firmware importante avec le Z9, qui est un appareil qui est sorti en 2020. Là.
Oui.
L'appareil a 5 ans aujourd'hui. Puis il sort encore des mises à jour. Il y a deux choses qu'il faut... Bon, les mises à jour, c'est des choses... peut-être pour certaines personnes plus futiles, pour d'autres,
qu'on
des
sous-estime.
Choses qui sont plus importantes pour d'autres personnes. Quelqu'un qui fait la photo sportive animalière, il trouve son pied parce que ça limite la distance de mise au point. Tu peux décider entre 4 mètres et 7 mètres. Ton sujet est là-dedans. Il focus que dans cette zone-là.
Okay.
Là, tu es mal pris si ton sujet il sort. Faut que tu désengages ce système-là, mais ça existe. L'autre chose que j'aime qu'ils ont ajouté, qui étaient des fonctionnalités qui existaient déjà dans le Z8, dans le Z6-3, dans le ZF, c'est les noirs et blancs. Ils ont mis des noirs et blancs. Ils ont ajouté des versions. Moi, je suis un triple de noir et blanc. Je fais presque juste du noir et blanc avec mon Z9. Fait que j'avais ma petite recette de noir et blanc dans mon boîtier. Mais là, ils ont des noirs et blancs profonds qu'ils appellent, comme j'aime. J'ai même pas besoin de faire de manigance. Ils ont tout ajouté ça. C'est plein de petites affaires que tu fais comme « Oh my God, wow! »
Une petite valeur ajoutée qui dit « Ah, mais c'est le fun, soudainement, je redécouvre un peu mon boîtier autrement. »
Il y a Jean Photomode, qui est un de nos ambassadeurs, qui a fait justement une capsule sur les améliorations avec le dernier firmware du Z9 pour les gens qui voudraient le visiter. Jean Photomode, c'est assez facile à trouver sur YouTube. Pour ceux qui ont un Z9, évidemment, si c'est un Z5, tu ne seras pas intéressé.
Ça marche un peu moins.
Et les compagnies comme, là, je dis Nikon, mais Canon fait aussi des mises à jour régulièrement. Fuji fait des mises à jour régulièrement. Sony fait des mises à jour régulièrement. Mais au bout de 5 ans, Je pense que Nikon, c'est le seul qui fait encore des mises à jour au bout de 5 ans. C'est parce que c'est un appareil qui a 5 ans, le Z9, là. Sorti en décembre 2020.
Ça peut paraître loin, mais en même temps, au prix qu'ils sont, tu dis, ben, je ne veux pas changer.
L'appareil a 7 000 $, là.
Oui, c'est exact.
L'appareil qui vaut 7 000 $, là. Alors, effectivement, puis quand ils sont passés du firmware 1 au firmware 2, ce Z9-là, c'est comme si tu avais carrément acheté un nouvel appareil sans que ça te coûte une scène. Fait que, oui, les appareils sont chers, sont vraiment chers. C'est pas pour tout le monde, un Z9, là. C'est un appareil de ce format-là, là,
oui.
Un Z9. Là. C'est un gros appareil. Là.
On s'entend, c'est pas ça que tu achètes pour faire des photos.
C'est pas ça à tous les jours, surtout pour un pique-nique. Là. Tu sais,
non,
c'est pas sur ton téléphone fait peut-être une meilleure job dans tes poches.
Oui, il est moins encombrant.
Mais c'est quand même exceptionnel que 5 ans plus tard, puis après ça, il est sorti des Z8. Parce que moi, ce que je voulais dans la vie, là, c'est un Z8. Je voulais pas un Z9. Je voulais un Z8. Je voulais les performances d'un Z9 dans un appareil du format d'un Z8.
Oui.
Et c'est exactement ce qu'on a dans un Z8. Et même, je te dirais, avec le temps, le Z8 est sorti un peu plus tard, il y a des choses que le Z8 font que le Z9 ne font pas. Tu sais, puis bon, qu'est-ce que c'est? C'est pas grave, qu'est-ce que c'est? Je m'en servirai probablement pas, mais moi, c'était le format que je voulais. C'est un Z8 que je voulais. Il n'existait pas. Fait que j'ai attendu 1 an et demi après un Z8 qui n'est jamais sorti. Puis comme toute bonne chose, à chaque fois que j'achète un nouveau produit, j'ai acheté le Z9, puis 1 mois et demi après, le Z8 est venu au monde. Mais c'est comme ça, je vis bien avec ça.
Ouais, ben c'est malheureusement un peu le quotidien quand tu achètes un
produit. On parlait des téléphones à Apple, puis tout ça.
Oui.
T'sais, moi, j'achète, peu importe le téléphone que je vais acheter, dans 1 mois et demi après, l'autre est annoncé. Là. Peu importe.
Ben,
n'importe quel. Eux autres sont plus planifiés, vraiment.
Ah, ouais, y a, tu sais... Moi, quand j'ai changé mon téléphone, j'ai attendu dans le but d'avoir
le plus récent. Attendu.
Oui, j'ai attendu, mais ça a été pénible. Là, parce que je ne suis pas du genre à aimer à attendre pour avoir mes nouveaux joujoux. Là. Je suis du genre à les vouloir là, ouais, aujourd'hui.
Je connais comme ça aussi.
Fait que, le téléphone, je savais qu'il était annoncé. Je savais qu'il allait arriver. Il était sorti
à octobre. À la boutique. Là.
Exact. Et le jour qu'il est sorti, je suis allé chercher. Puis... bon, ça a été un peu de trouble parce que...
Tu ne l'avais pas ou tu l'avais commandé.
Non, en fait, iPhone, ce qu'ils font, puis je ne savais pas qu'ils faisaient ça, c'est que quand ils sortent un nouveau produit, les nouveaux iPhones, pour les 3 premiers mois, quand tu l'achètes ailleurs que dans un Apple Store, c'est uniquement avec un plan avec la compagnie de téléphone. Okay. Tu ne peux pas acheter... uniquement l'appareil pour aller l'installer.
Il faut que tu l'achètes avec le plan.
Exactement. Oh, et moi, je ne voulais pas acheter de plan. J'ai déjà mon plan, j'ai déjà tout ça. Je veux juste le téléphone.
Ouais.
Fait que j'étais dans un centre d'achat. Il dit non, il faut que tu ailles chez Apple Store. Ben là, je ne reverrai pas à Brassard pour chercher ça. Et finalement, ben, j'ai viré le lendemain au Apple Store pour l'acheter.
Tellement agréable d'aller là. Hein?
Ah, j'ai eu ça pour mourir. Un, il y a trop de monde. Deux, c'est un zoo là-dedans. Là.
Je suis allergique. Oh, tu sais, j'ai rien contre le monde qui magasine. Moi, le 10-30, ça me fait pousser des boutons. Je déteste cet endroit-là. Je suis pas capable. Puis à chaque fois, je tourne en rond pendant 20... Tu sais, je vais pas là assez souvent, peut-être, là, tu vas dire. Je suis pas un magasineux en partant. Mais je suis allé dernièrement au Apple Store parce que j'ai changé mon Mac.
Mm-hmm.
Puis, juste y aller la veille, je faisais déjà de l'anxiété. Je savais que j'allais... Finalement, je me suis stationné. Il y avait tellement de monde. J'étais stationné à peu près à 700 mètres du Apple Store. Il n'y avait pas de place dehors.
Ouais.
J'étais allé en dessous. Puis là, il faut que tu prennes le numéro de ton stationnement. Écoute, j'ai ça.
Ouais. Mais non, fait que c'est ça. Fait que
mais bref.
Ces appareils-là, ben c'est ça. Ça vient avec ce genre de game. Puis tu dis, voilà, c'est un peu plate. Mais au moins, les iPhones... Tu le sais quand il sort, de plus en plus, les rumeurs sont de plus en plus précises, ouais, plus exactes.
Ils sortent pas mal à des dates.
Oui, c'est assez précis. C'est
septembre tout le temps. Oui,
c'est possible, ça.
Là.
Fait qu'à partir de ce moment-là, ben, si t'es en août, tu te dis, bon, ouais, ben, je vais attendre un peu, ouais, là, plutôt que d'acheter.
C'est sage d'attendre quelques mois.
Oui, exact. Mais tu sais, tu vois ça pour moi, les produits, les iPhones, puis je ne veux pas nécessairement m'éterniser là-dessus, mais ils t'achètent tout le temps le même foutu téléphone. C'est pas comme un boîtier quand tu passes d'un D750 à un Z7 II.
Deux machines
complètement différent. Mais quand tu achètes un iPhone, que tu achètes un 12 ou que tu achètes un 17,
ça, t'es pas mal à la même place.
Les icônes, c'est les mêmes affaires. Si l'OS, c'est la même affaire. Puis concrètement, tu as un meilleur appareil photo, tu as une meilleure batterie, tu as un meilleur ci. Mais
ça améliore un petit peu d'une fois à l'autre.
Oui.
Mais tu sais...
Le gap n'est pas aussi élevé qu'avec DJI, mettons.
Non, on est... Tu sais, moi, j'ai changé, je me souviens, j'ai changé un 13 pour un 15. J'attends toujours au moins une génération. Puis deux générations, je devrais dire. Mais je pensais, selon ce que j'avais lu et entendu, que ça changerait ma vie, là. Puis...
Ah, écoute, j'ai passé d'un 12 à un 17. Un 12 Pro à un 17 Pro, puis... Oui, l'appareil
est mieux, il fait de la macro. Oui.
Mais c'est pas wow, je sais pas, j'ai pas découvert quelque chose de nouveau là.
Mais c'est tout là, c'est parce qu'ils ont ajouté beaucoup, là, on est beaucoup dans l'intelligence artificielle. Hey, ça c'est un autre sujet mon chum. On pourrait jaser de ça pendant des heures. Mais ils ont ajouté beaucoup d'éléments d'intelligence artificielle qui font que le 12 ou même le 13 ou même le 14 fonctionnerait même pas. Ils ont ajouté des éléments avec les mises à jour. Ils t'en incorporent un petit peu, mais si tu n'as pas le dernier téléphone, t'es pas up-to-date pantoute.
Mais écoute, je reviens un peu à ma question de base, à savoir c'est quoi les prochaines révolutions que tu aimerais. On a parlé par rapport au boîtier. Si maintenant on parlait un peu du drone, qu'est-ce que tu verrais? Moi, personnellement, le premier truc, je te laisse réfléchir. Moi, c'est les foutues batteries. Il faut qu'une batterie sur un drone, il faut que quelque part dans les prochaines années, ça dure au moins une heure. Ou en tout cas, il faut passer cette étape-là. C'est pas normal qu'un mini, ça dure 20 minutes ou un truc comme
ça. Mais tu vois, oui, je suis 100%, 100%, même 1000% d'accord. J'ai quand même trouvé que le Mini 5 fait mieux que le Mini 4.
Oui.
Beaucoup mieux. 5 à 7 minutes de plus. Mais écoute, le Mavic, moi, je ne suis même pas habitué encore de ne pas changer de batterie là, pendant... Tu sais, j'ai un Mavic 4 Pro, puis je vole ça 40 plus minutes. Là,
oui.
Sans stress. Là. À un moment donné, je me dis, écoute, il faudrait que je regarde. Oh, il reste encore 42%. Ça fait combien de temps que je vole? Ça fait super longtemps. Mais... 100% d'accord.
Écoute-moi, un moment donné, puis j'ouvre une parenthèse rapide. Un moment donné, j'étais avec une amie. Elle avait un Mini 3 Pro de mémoire. J'avais un Mavic 3. Elle a changé de batterie. Elle a changé sa batterie deux fois quand moi, je la changeais juste une fois. Là.
C'est l'enfer.
C'est à ce point. Ouais, là.
Mais le Mini 4, c'était pas sa grande force, les batteries. Le Mini 5, beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux en ce qui me concerne. L'affaire, pour moi, là, pas à rire. Ça existe déjà. Il y a une compagnie qui fabrique des drones qui vient tout juste de mettre ça en marché.
Un 360.
J'attends le DJI, le 360. C'est évident.
Jusqu'à quel point que c'est pas une bébelle, par
contre? C'est une bébelle. Okay. Littéralement une bébelle. OK? Littéralement. J'ai aucun besoin pour ça, mais je veux l'avoir pour le fun que c'est, que ça va me procurer. C'est purement ludique. J'ai même pas d'application. Je m'en découvrirai, là.
Oh, oui.
Mais j'ai pas d'application pour ça. Puis je te dirais, la deuxième chose, malgré que sont excellents, OK? Si j'avais un score à donner, je donnerais 9,5 sur 10 en ce moment. La stabilisation. Encore mieux au niveau de la stabilisation.
C'est par rapport au vent?
Sur la nacelle,
okay.
Par exemple. Souvent, je vais voler, puis la nacelle, je la sens bouger, là, je la vois. Tu sais, visuellement, je la vois bouger. Peut-être que je vole un peu trop vite en faisant ma vidéo, ça se peut. Je le vois plus avec le Mini 5 qu'avec le Mavic 4, qui est plus costaud. La stabilisation. Là, ce que j'entends, ce que je pense qui va arriver, j'ai quelqu'un qui, dans mes connaissances, qui travaille à MIT. Il est implacé pour savoir les avancées technologiques. Là. Il disait que dans pas si longtemps que ça, il n'y aurait plus de nacelle qui stabilise.
OK.
Il y aurait un capteur beaucoup plus gros qui recadrerait exactement.
Oui, parce que la stabilisation, moi, ce que je remarquais, ça fait du sens. Parce que moi, sur le Mavic 3, ce que je remarquais, c'était que quand tu suivais, par exemple, une route puis qui était parfaitement droite, puis tu focussais pour être sûr que la ligne jaune soit en plein milieu
ouais.
Mais après, un certain temps, tu le sentais déraper.
Il dérapait, oui.
Il n'y avait pas de vent, nécessairement.
Ben, c'est la même chose avec le Mavic 4.
Oui. Fait que ça, pour moi, c'est une amélioration qui est nécessaire. C'est pas normal qu'aujourd'hui, si je fais une ligne droite, j'aille toujours une courbure.
ou carrément, ils pourraient incorporer dans leur logiciel de suivi, tu pointes un sujet, si c'est une route, par mm-hmm. exemple, que ta route soit toujours cadrée et suivie. Ils font déjà avec des objets.
L'action tree.
C'est ça, avec les systèmes d'action. Alors, pourquoi pas dans le drone? Mais sinon, j'ai pas grand-chose. Les deux drones que j'ai, là, sérieux, me remplissent de bonheur. J'ai rien à dire. C'est des produits de très, très haute qualité. La qualité d'image est exceptionnelle.
Ah, c'est hallucinant.
Puis je montre des fois des photos de drones. Les gens disent, c'est qu'un drone? On est rendu là.
Ouais.
L'optique, mais tu sais, quand on parle du Mavic 4 quand même, c'est une caméra Hasselblad qu'il y a là-dessus.
Oui.
Là.
Et
c'est de la technologie à cette blade, là.
Puis on le voit. Moi, honnêtement, le test que je fais toujours entre le Mini et les Mavic,
ouais.
c'est de l'envoyer directement sur le soleil couchant, ouais. par exemple, ouais. puis de voir la différence.
La plage dynamique.
La plage dynamique est complètement
absolument.
Différente. Sur le Mavic, ça va être un beau soleil, tout bien c'est jaune, tout, orange et tout doux.
Ouais.
Sur un Mini, là, ça va être un peu
ça
brûlé.
Ça crame un peu. Ouais. Ouais, mais c'est correct. Mais tu vois, ça, je les ai testés. C'est un des premiers tests que j'ai fait. Plage dynamique, d'ailleurs, c'est pas mal la première chose que je t'ai dit. La plage dynamique est hallucinante sur le Mavic. C'est quand même un micro 4 tiers, c'est un gros ouais. capteur. Là. Mais j'ai découvert qu'en shootant avec le D-Log M sur le Mini 5 Pro, Colin, en réappliquant après ça dans DaVinci, par exemple, mm-hmm. en réappliquant des profils, Colin, c'est pas pire. C'est 90% d'un Mavic. Là.
Okay.
Mais c'est pas un Mavic.
Ben, il faut pas.
Non.
Parce que sinon, t'as aucun avantage à payer le prix.
En fait, la raison principale pour le Mavic, si on parle de drone, c'est que le drone, la stabilité au niveau du vent, tu sais, tu peux le lever à 40 km/h de vent.
Et même plus.
Il s'en moque complètement.
Ah, écoute.
Avec un Mini, je ne suis pas sûr que...
Moi, je l'ai cru aux îles de la Madeleine quand je volais. Là-bas, c'était flagrant. Tu montais à 50 mètres, tu avais des vents, par exemple, à 30 ou 35 km/h. Pouf, tu le montais à 100, puis là, soudainement, c'était 60. Et ça apparaissait énormément.
Ouais.
Tu le sentais hein, dans ton pilotage.
Oh, oui, clairement. Mais déjà, c'est hyper performant. Tu sais,
ouais.
À part le ben la batterie, c'est vrai que...
C'est moins problématique mini, sur un Mavic, parce que ça dure déjà un bon 40 minutes.
Sur un Mini, si on pouvait avoir un 40 minutes, un vrai 40 minutes, sans excéder le poids, là,
ouais.
sur une pile standard, là, intelligence standard. Ouh! Ça serait comme sur un Mavic.
Ben, ça ferait en sorte que tu pourrais très bien partir en vacances avec 3 piles puis laisser le chargeur à la maison. Parce que tu dis, parce qu'un drone, on s'entend, c'est plutôt rare que tu vas utiliser ça pendant une journée complète.
Ouais.
Tu fais tes
Tu fais des bouts de clips puis des bouts des moments spécifiques.
Exact.
Tu sais, filmer à midi avec un drone, c'est plat.
Non, c'est pas ça qui est...
Comme la photo, hein?
Et c'est la même chose. Non, les meilleurs moments, c'est
le matin
ou le
soir, c'est clair.
Ou la nuit, à limite.
Le dernier clip que j'ai tourné, d'ailleurs, quand c'était un atelier qu'on donnait avec leurs photos, c'était pour les oies blanches, puis l'atelier était de 6h le matin à 11h. Je suis pas parti voler à 6h le matin, il fait noir encore.
Ouais.
Mais je me suis rendu à 8h le matin. La lumière de 8h le matin, là, l'hiver, là. Surtout l'hiver. La lumière d'hiver. C'est la plus belle lumière. C'est une lumière qui est pure, tu n'as pas de pollution. L'air est translucide.
Ouais.
C'est juste voir les couleurs qui sont sorties de là. Aucune retouche. J'ai même pas touché à la luminosité ou aux couleurs. J'ai édité, j'ai monté avec exactement ce que j'avais filmé, puis je me croyais même pas. Tu sais, moi, j'avais acheté un Holy Stone, un petit drone. Mon premier drone, c'était un Holy Stone,
ouais.
que j'avais acheté pour à peu près 300$, là, tu sais, puis en me disant, bon, je vais checker, ouais, si j'aime ça. J'ai aimé l'expérience de voler puis de prendre des photos dans les airs. J'ai pas aimé le drone, pas du tout, absolument pas. La semaine suivante, j'étais allé m'acheter un Mini 2, qui était le drone de l'époque
qui venait
en série Mini. Ben, il était un petit peu. Non, il était pas en fin de vie, mais je savais pas trop ce qui était dans la position. Là. J'ai acheté ça au mois de mai. Puis en juillet, il sortait le Mini 3 Pro. Fait que là, en juillet, j'aimais tellement mon Mini 2. Puis là, le Mini 3 Pro faisait exactement ce que je voulais faire du vertical. Pas parce que je veux filmer en vertical ou que je veux photographier en vertical. C'est parce que je fais des panoramiques verticales. Avec mon Z9, quand je fais des panoramiques, c'est toujours des panoramiques virées à la verticale pour l'avoir plus haut
ouais.
que si je le fais à l'horizontale, c'est plus écrasé, si on veut. Alors, quand le Mini 3 Pro est sorti et que j'ai vu qu'il faisait du vertical, j'ai dit, je l'aurais pas changé autrement. J'aurais attendu au Mini 4.
Ouais.
Mais non, j'ai vu vertical, bref, et j'ai fait comme ça.
Ce que j'en retiens, c'est que du Holy Stone, des trucs comme ça, on n'ajoute pas sur usager.
C'est de la bouée.
On touche même pas à ça. Tout ça, puis toutes les autres compagnies qu'on ne sait pas d'où ça sort, il y en a plusieurs là, de ces compagnies-là. Là.
Il y a quand même plusieurs bonnes compagnies de drones. Tu as oui. Skydio, tu as Hotel,
oui.
qui font des très bons drones. Une nouvelle compagnie que j'ai vue apparaître il n'y a pas longtemps.
Antigravité.
Dont j'oublie l'antigravité avec le 360. Mais tu sais, c'est Insta360 qui est en arrière
oui.
de la caméra. Mais antigravité, c'est eux qui fabriquent le drone.
Oui.
C'est deux compagnies qui sont comme dit, hey, on travaille ça ensemble
oui.
pour faire un truc.
Faire un bon
ça,
mix.
C'est cher, là. Oui. C'est pas donné, c'est 2300$. Si tu veux un kit Flymore, c'est 2300$. Ouais. C'est
parce que des drone, GI, mais c'est 90% du marché. Là.
Ça. Oui, mais puis là, pour revenir à l'idée du Mini, ça reste un drone en dessous de 240, en bas de 250 grammes.
Oui.
C'est un micro-drone 360. Wow! Puis c'est hallucinant. La qualité d'image est bonne, puis sont au firmware 1, là.
Tu l'as-tu essayé?
Non, j'ai juste
vu. J'ai juste vu les shots,
j'ai
ouais.
vu les shots, puis j'ai écrit, j'ai un contact que j'aime bien, qui s'appelle DM Productions sur
YouTube.
Sur YouTube, qui est un mec que je suis depuis quelques années, depuis que je fais du drone, là. Puis lui, il est très anal dans ses descriptions, dans ses affaires. J'ai écrit, j'ai juste envoyé un petit mot, c'était... Pour vrai, là, tu sais, si je te demande ton opinion honnête, il dit, c'est hallucinant. Il dit, ça, c'est juste le firmware 1. Il dit, je peux même pas m'imaginer les améliorations qu'ils vont faire, le suivi. Tu peux ne pas bouger ton drone, tourner ta tête, puis faire revoir tout ça en 360. Comme la réalité virtuelle, ton drone, il filme en 360. T'as plus de cadrage à faire.
Ouais.
Mais là, c'est... Entre nous, c'est la méthode paresseuse. Là. Ouais. Moi, je ne suis pas nécessairement un fan du pas de cadrage. Là.
Ben, moi, j'aime bien cadrer.
Moi, j'aime ça cadrer. Moi, je suis un photographe. T'sais.
Moi aussi.
Ma base de tout ça, c'est que j'aime l'expérience de photographier. Puis, si on repart, on revient 2 secondes dans l'usager, il n'y a pas un meilleur moment en ce moment pour acheter du matériel usager parce que les gens passent au sans-miroir puis laissent aller leurs équipements. Ils sont encore
cher.
En très bonne condition
oui.
pour vraiment pas cher. Pour un jeune qui veut commencer, qui veut goûter à c'est quoi de la vraie photo, pour moi, faire de la photo avec un téléphone, ça reste très artificiel. Tu sais, c'est pas...
Il y a moins de créativité.
Tu peux la créer, ta créativité. Mais, tu sais, des effets d'optique, là. Tu ne peux pas inventer ça.
Non.
La compression optique, tu ne peux pas inventer ça dans un téléphone. Ça n'existe pas. Tu peux créer un flou artificiel, mais c'est comme une perruque. Quelqu'un qui a une perruque sur la tête qui pense que personne ne le sait, tout le monde le sait qu'une perruque sur la tête. Tu sais, je ne sais pas parce que j'ai une perruque que j'ai une tique. Je voulais juste montrer ma belle tique là, hors photo. Mais l'idée en arrière de ça, c'est qu'un jeune qui veut commencer, qui veut s'équiper de pièces usagées, en bas de 300$.
Ah, il y a des sacrés bons deals. Mais
réflexe,
oui.
avec un ou deux, même deux objectifs, puis il peut goûter.
Oui, parce que ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais même du côté des objectifs, il y a des sacrés bons
deals. Les deals sont hallucinants.
Encore plus pour tout ce qui est réflexe. Le monde les sort, les veulent plus.
Nikon, Canon, là, t'as des objectifs qui ont... C'est des fabricants d'optique. C'est deux fabricants d'optique.
Ah, oui.
Puis c'est eux qui fabriquent leurs optiques. Alors, les optiques sont des optiques bien, bien calibrées pour leurs équipements. Pas cher.
Oui.
Un 50 mm 1.8, t'as ça à 100$.
Non, moi, je me rappelle, quand j'avais acheté mon D700 dans le temps, j'avais acheté un 24-120,
ouais.
un super de bon objectif, que quand je suis passé à 810, je l'ai gardé.
Oui, il est encore bon.
Il est encore très bon. Puis aujourd'hui... Eh bien, il fera encore très bien l'affaire. C'est un excellent objectif.
Définitivement, oui. En ce moment, dans l'usager, en ce moment, là, en décembre 2025, les gens qui veulent s'équiper de bons produits usagés, ils ont du choix, mon chum, là. Ils ont tellement de choix. Ils ont du choix. Ils ont, pour tous les prix, tu peux t'équiper. Oui. Évidemment, tu peux t'équiper d'appareils plus haut de gamme. Évidemment, plus cher, forcément. Mais tu peux t'équiper pour des appareils que je considère comme étant des appareils capables de faire de la très, 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 très bonne qualité de photo. Parce qu'on sait que l'appareil, c'est une chose, mais la personne en arrière de l'appareil... Veux-tu un verre d'eau? mais que la personne derrière l'appareil... C'est aussi important que l'équipement.
Ah, pratiquement. Oui,
tu donnes un équipement professionnel à quelqu'un qui n'a pas trop d'habitude, puis un équipement amateur à quelqu'un qui est full habitué. C'est pas juste. C'est pas même injuste. Oui, l'appareil qui est très performant va focusser plus facilement, mais est-ce qu'il va faire une meilleure photo? Pas nécessairement.
Non, exact.
La meilleure photo, c'est le photographe qui a fait.
Ben. Écoute, c'était vraiment intéressant.
Ouais, on aurait pu en jaser un autre 2 heures.
On aurait pu jaser encore longtemps. Ça fait déjà quasiment 1h45 qu'on en jase.
Ouais, c'est nous autres, quand on s'emballe.
Voilà ce qui complète pour l'épisode d'aujourd'hui. Un grand merci à vous tous d'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les en commentaire. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Abonnez-vous par la même occasion. Mais sinon, pour ce qui est du reste, moi, je vous dis à la prochaine. Merci. Bye.